Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Heureuse de vous retrouver ce soir encore pour 2 heures de dialogue et de partage. 2 heures pendant lesquelles vous pouvez prendre la parole en appelant le standard Europe 1, le 39-21. Amandine et Hassan sont là et prêts à vous accueillir avec leur gentillesse habituelle pour vous guider jusqu'à moi. Quel que soit le sujet dont vous avez envie de parler, n'hésitez pas, prenez votre téléphone, venez nous rejoindre dans cet espace de liberté où on peut parler de tout ce qui fait notre vie. Et à propos de ça, j'ai retrouvé ce matin un texte très connu du merveilleux Jean d'Ormesson, que j'avais lu il y a longtemps mais que j'ai relu avec beaucoup de plaisir. J'ai pensé que ça pourrait vous faire plaisir à vous aussi, que je le partage ce soir, que ce soit une découverte ou une redécouverte. Ça s'appelle « Le train de ma vie ». À la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos parents. On croit qu'ils voyageront toujours avec nous. Pourtant, à une station, nos parents descendront du train, nous laissant seuls continuer le voyage. Au fur et à mesure que le temps passe, d'autres personnes montent dans le train. Et elles seront importantes, notre fratrie, nos amis, nos enfants, même l'amour de notre vie. Beaucoup démissionneront, même éventuellement l'amour de notre vie, et laisseront un vide plus ou moins grand. D'autres seront si discrets qu'on ne réalisera pas qu'ils ont quitté leur siège. Ce voyage en train sera plein de joie, de peine, d'attente, de bonjour, d'au revoir et d'adieu. Le succès est d'avoir de bonnes relations avec tous les passagers, pourvu qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. On ne sait pas à quelle station nous descendrons, donc vivons heureux, aimons et pardonnons. Il est important de le faire car lorsque nous descendrons du train, nous ne devrons laisser que de beaux souvenirs à ceux qui continueront leur voyage. Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions le ciel de ce voyage fantastique. Aussi, merci d'être un des passagers de mon train et si je dois descendre à la prochaine station, je suis content d'avoir fait un bout de chemin avec vous. Faisons donc un bout de chemin ensemble ce soir, 3 moyens pour nous retrouver. Par téléphone, donc en appelant le 3921, par SMS en faisant le 7-3921 en commençant par le mot « nuit » ou par mail à l'adresse suivante libreantenne@europe1.fr. À la réalisation, lui aussi est prêt à commencer, c'est Fabrice Fougerouze. Alors la Libre Antenne, ça commence maintenant.
23h, 1h, la Libre Antenne sur Europe 1. Sabine Marin.
Et on va démarrer ce soir avec Olga qui vient nous parler d'un problème qui touche en fait beaucoup de gens, ce sont les acouphènes. À tout de suite.
Paul, je vais à la maternité voir le petit, tu viens ?
Ah non, je dois absolument acheter ma Volkswagen.
Ça va, elle va pas se sauver, c'est ton neveu quand même.
Parce qu'il va se sauver, le neveu peut-être, hein ? Il va faire comment ? Il va voler une poussette ? Ah ben non, je suis bête, il va faire le mur en nouant ses langes.
T'es tendu, toi ?
Pas du tout.
Si.
Ne laissez pas passer votre chance. Du 14 au 18 mars, profitez du crédit 0% sur toute la gamme Volkswagen. Pour 10 000 euros empruntés, 1 500 d'apport, 36 mensualités de 277,78 €, montant total dû 10 000 euros. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank, conditions sur Volkswagen.fr. Portes ouvertes ce week-end.
23h, 1h. La Libre Antenne sur Europe 1. Sabine Marin.
Bonsoir Olga.
Oui, bonsoir madame.
Bienvenue
bonsoir.
Sur cette libre antenne. Vous avez un souci d'acouphène, c'est ça ?
Oui, tout à fait. J'ai ce souci d'à peu près depuis l'âge de 30 ans. Donc j'évite d'y penser parce que j'ai la cocomile qui siffle sans arrêt. Et lorsque je me couche, si j'écoute mes oreilles, je dors plus. Donc je les oublie, voilà, parce que en fait du côté gauche j'ai ce sifflement de courte minute et le côté droit là c'est comme si j'étais dans la cabine d'un camion, vous savez, qui est arrêté au feu rouge, j'ai ce bruit là. Donc
ça a commencé comment ?
C'est très désagréable. Eh bien, écoutez, je sais pas du tout. Mais donc mon métier c'était la coiffure, donc je suppose que peut-être les bruits de séchoir à main ou voilà, peut-être cela. Je sais pas du tout, du tout, du tout. Donc, je sais que le problème, il n'y a rien à faire. Hein, il faut vivre avec ça, voilà. C'est quand même très désagréable parce que même dans le bruit, j'entends mon sifflement d'oreille qui domine, hein, voilà.
Alors, il n'y a rien à faire. Je suis pas complètement sûre. Peut-être qu'on peut pas guérir complètement, mais il y a quand même des techniques qui permettent d'apaiser. Hein.
Oui, ben je voudrais bien les connaître, hein, en tous les cas.
Qu'est-ce que vous avez tenté, j'imagine, depuis ça fait... Quel âge avez-vous aujourd'hui, Olga?
Ah là là, là là, là là, là là.
Pardon, alors on enlève ça, mais ça fait, non. Nombreuses années.
Ma tête, elle a 40 ans. Là, bon, j'ai des amis de cet âge-là, n'est-ce pas? Parce que les gens de mon âge, ben, je trouve qu'ils sont toujours en train de se plaindre de ceci, de cela, et ça ne me convient pas. En fait, j'aurai 74 ans au mois de juin, mais bon, je les ressens pas du
mais
tout.
Vous les faites pas du tout au téléphone, en tout cas.
Oui, mais c'est vrai.
Ce que je voulais savoir, c'est voilà, depuis combien d'années vous vivez avec ça? Ça fait plus de 30 ans, quoi.
Ah, depuis l'âge de 30 ans, oui, tout ça. À fait. Oui.
Qu'est-ce que vous avez tenté?
Ben, j'ai été voir les spécialistes qui me disaient, ben, il n'y a rien à faire, il faut vivre avec. Hein, donc, je me suis adaptée à mon problème d'oreille.
Ouais, alors voilà, je suis pas complètement d'accord avec ça, pour la bonne raison que j'ai quand même discuté beaucoup de ce problème, parce que j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont ce souci d'acouphène. Il y a quand même des techniques qui aident. J'ai discuté notamment avec un éthiopathe. Oui. L'éthiopathie, c'est un petit peu comme l'ostéopathie.
Oui, mais je vais chez l'ostéopathe.
Mais un éthiopathe, et lui, oui. il a eu de bons résultats sur les acouphènes avec l'éthiopathie.
Ah bon? Oui. Ah bon? Oui. Écoutez, ben je vous écoute et j'irai voir un éthiopathe. J'espère qu'il pourra me débarrasser de ce problème-là.
Débarrasser complètement, je peux pas vous le garantir, mais lui m'a vraiment garanti que régulièrement il a de bons résultats, en tout cas sur un apaisement assez significatif, oui. Ce qui est déjà mieux que rien. Oui. La deuxième chose, et vous avez commencé à en parler vous-même, vous m'avez dit tout à l'heure, j'oublie. Et effectivement, en hypnose, on a de très bons résultats aussi. Pourquoi? Parce que le son, vous savez comme on est tous capables d'être exaspérés par le bruit des voisins, par exemple la télé chez les voisins, alors qu'on a la radio qui crie à côté de nous et qu'on ne s'en rend pas compte, ça ne nous gêne pas. On est aussi capable d'être exaspéré par un tic-tac d'une horloge et puis d'être d'un seul coup occupé par autre chose et ne plus l'entendre.
Oui, c'est sûr.
Ça veut dire qu'en fonction de ce sur quoi on focalise notre attention, on ne perçoit pas le son de la même manière. Et ça, on peut travailler là-dessus en hypnose.
Voilà, oui, mais ce que je fais, moi, j'oublie mes oreilles le soir lorsque je me couche. Parce que sans cela, je ne dors pas. Si je mettais attention à mon bruit d'oreille, je ne peux pas dormir. Donc, j'oublie.
En fait, ce que vous dites, quand vous dites oublier, c'est que vous vous focalisez sur autre chose.
Voilà.
Vous commencez à rêver, à penser à des choses agréables.
Oui, je pense les choses que j'ai passées dans la journée, si j'ai passé une bonne journée, ou voilà quoi.
Eh bien, sans le savoir,
et puis je vais vous dire aussi ce que je fais pour m'endormir, je compte les moutons.
Oui.
Je compte un, deux, alors ça me permet d'oublier mon bruit d'oreille. Un, deux, trois, et ça finit par m'endormir.
Oui, mais en fait, sans le savoir, ce que vous faites, c'est une sorte d'auto-hypnose. C'est-à-dire que vous dirigez vos pensées vers autre chose.
Voilà. Oui.
Oui. Et puis,
j'ai fait de la sophrologie.
Voilà,
aussi.
J'allais vous dire, et puis la sophrologie pour au moins apaiser.
Ça m'a absolument rien fait, l'hypnose, pas du tout. Ça m'a rien fait, parce que j'ai pratiqué l'hypnose pour arrêter de fumer, notamment. Mm-hmm. Et ça ne m'a rien apporté, puisque j'ai continué de fumer.
Oui, voilà. Vous n'êtes peut-être pas tombé sur la bonne personne non plus.
Méfiez-vous
de ça. Parce qu'il y a vraiment de très bons résultats sur ce genre de soucis. Et puis, je vous dis, une fois plus, l'éthiopathie aussi, c'est intéressant. Parce que partir en disant « il n'y a rien à faire », ça m'ennuie un petit peu. Ça veut dire que vous restez avec cette souffrance et vous dites « il n'y a rien à faire ».
Bien sûr.
Il y a quand même des gens qui arrivent à atténuer ce sentiment-là. Est-ce qu'il y a un moment de la journée où c'est plus probant, où c'est plus désagréable?
Non, c'est toujours pareil. Le bruit est toujours le même. Oui, c'est le sifflement de cocotte-minute sans arrêt.
Et ce qui est pénible, là, j'imagine aussi, c'est...
Oui. Pardon, excusez-moi. Là, vous me parlez, mais j'entends ce sifflement de l'autre côté. Donc, mais je m'y adapte, je me suis adaptée.
Ce qui est très pénible...
Mais bon, je vais aller essayer de trouver un bon éthiopathe, parce que là aussi, il faut trouver un bon éthiopathe. Hein.
C'est ça aussi. Ce que je voulais vous dire, c'est ce qui est pénible quand on a ce genre de pathologie, c'est que les autres ne se rendent pas compte du tout.
Non, pas du tout.
C'est totalement invisible et c'est difficile d'être compris, de dire qu'on a un problème alors que ça ne se voit pas, quoi.
Oui, voilà, tout à fait. Oui. De toute façon, en plus, je ne me suis jamais écoutée parce que, en fait, j'ai travaillé, même malade, avec des crises de colibacillose, je ne m'arrêtais pas. Rotule fêlée, je n'ai jamais arrêté. Broncho-alvéolite, j'ai jamais arrêté. Je n'écoute pas, j'écoute pas la maladie.
Tiens.
Voilà, là, vous voyez, actuellement, j'ai fait un bilan, et le docteur me fait faire plein de bilans, parce que tous les mois, ça m'agace, j'ai horreur de ça, d'aller chez le médecin, notamment, j'ai horreur de me soigner. Je me persuade de me guérir le mal par moi-même, de pas m'écouter. Donc, voilà. Et j'ai un mauvais bilan, j'ai un marqueur de cancéreux. Mais comme j'ai dit à mon docteur, le cancer, il passera pas, il est à côté de mes chaussures. Je me suis persuadée. Et j'ai aussi les globules blancs et les globules rouges qui ne vont pas bien. Voilà. Mais c'est pas grave.
Olga, hein, est-ce que vous entendez ce que vous venez de me dire? De toute ma vie, je ne me suis pas écoutée.
Oui, non, je ne me suis pas écoutée parce que j'écoutais, je vivais que pour mon travail. J'étais passionnée par mon métier et peu importe les horaires que je faisais, puisque je faisais 65 heures par semaine et 49 avant de partir, j'ai arrêté à 64 ans et demi. Donc, et mon métier me manque énormément encore aujourd'hui.
Et vous ne faites pas un lien avec ce qui se passe dans vos oreilles, là, quand on dit « je ne m'écoute pas » Aujourd'hui, c'est vos oreilles qui vous obligent à vous écouter.
Oui, c'est sûr. C'est vrai. C'est vrai, ça. Donc, oui, ça, je voudrais bien me débarrasser de ce bruit, ça, c'est sûr. Donc, je vais vous écouter, parce que moi, je me fais suivre par un ostéopathe.
Un éthiopathe.
Et parce que moi, je vais chercher sur Montauban un éthiopathe. Parce que moi, l'ostéopathe, ça fonctionne pas. Ça fonctionne évidemment pour tout ce qui est système osseux, puisque j'ai bec de perroquet avec des problèmes au cervical, voilà, au milieu du dos aussi. Enfin voilà quoi. Mais ça, c'est professionnel, hein, donc.
Alors, je saurais pas vous expliquer exactement comment ils travaillent en éthiopathie, mais je sais que vraiment, il y a des résultats assez intéressants dans ce problème-là.
Je vais vous écouter.
Alors,
je me mets à la recherche d'un éthiopathe.
C'est bien, Olga, c'est bien de m'écouter, mais ce que j'aimerais, c'est que vous appreniez à vous écouter, vous.
Oui, c'est vrai. Mais malheureusement, je ne me suis jamais écoutée de ma vie.
Il n'est jamais trop tard pour commencer.
Oui, mais bon, mais c'est vrai que pour les oreilles, j'aimerais bien faire quelque chose, parce que c'est vrai que lorsque parfois je me mets à les écouter, c'est vraiment très désagréable.
Oui, mais quand on se focalise dessus, ça augmente.
Exactement. On n'entend plus que ça.
C'est ce que je disais, ça aussi, oui.
Oui, ouais, c'est vrai. Ouais. Non, bah écoutez, je vais regarder sur Montauban, et puis j'en ai un d'ailleurs qui habite pas loin de chez moi, là, qui est à 200 mètres de chez moi, parce que je vois les plaques quand je passe comme ça, donc
parlez-lui, demandez-lui s'il travaille là-dessus, s'il a eu des bons résultats.
Voilà.
Avant même de confirmer le rendez-vous, parlez avec lui de ça.
Oui, je ferai ce que vous me dites là, oui, tout à fait.
Il y a peut-être un chemin à creuser là, de ce côté-là.
Voilà. Hein? Mais écoutez, j'espère surtout que ça, ce que vous me dites là va bien fonctionner. Parce que vous voyez, je n'avais pas du tout pensé à un éthiopathe pour ce problème-là, hein. Pas du tout.
Je vous avoue que c'est un peu par hasard, j'ai eu cette conversation avec un éthiopathe il y a quelques temps autour d'un patient qui avait ce problème-là. Et j'étais assez surprise quand il m'a dit qu'il avait de très bons résultats. On a discuté avec plusieurs patients qui étaient passés entre ses mains et... Il joue sur des micros, je pense, c'est des micros endroits dans l'oreille ou dans le crâne. Enfin, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne techniquement, mécaniquement, mais en tout cas, il y a eu des résultats vraiment intéressants, donc ce serait dommage de ne pas essayer.
Voilà. Et puis, bon, j'ai eu un accident de voiture, ça fait une dizaine d'années maintenant. Et j'ai eu un traumatisme crânien, justement, de ce côté-là, au-dessus de l'oreille. Donc, est-ce que ça accentue encore plus le bruit? Je ne sais pas.
Comment vous êtes sentie après l'accident?
C'est-à-dire que j'ai pas senti l'accident, j'ai eu un malaise cardiaque. Donc en fait, j'ai pas vu les pompiers, je suis tombée, paraît-il, dans le coma parce que j'ai pas vu les pompiers, je ne suis pas vue à l'hôpital ou soins intensifs. Je me suis réveillée en fait que 2 jours après.
Ah, c'est le trou noir. Voilà,
c'est le. Et je pense que j'ai fait une sortie de territoire parce que j'ai dit à mon médecin ce que j'avais vu. Je voulais, j'étais devant la porte chez ma mère et je voulais sortir. Et j'avais, vous savez, quand on se trouve au-dessus des nuages avec un avion, dans l'avion là, j'avais devant la porte, c'était super joli, comme des nuages blancs. Et puis je voulais passer, j'essayais de passer mes jambes, de sortir, et j'y arrivais pas. Donc j'en ai parlé à mon médecin, il m'a dit « vous avez dû faire une sortie de territoire ».
C'est mignon comme nom, vous appelez ça, c'est ce qu'on appelle une décorporation ou
voilà.
une expérience de mort imminente aussi, on appelle ça
ouais,
comme ça.
Ouais, ouais.
C'est... J'avais pas entendu sortie de territoire, c'est marrant comme, ouais, comme terme.
Ouais, oui, ça c'est comme une chose que je dis jamais, parce que j'ai horreur quand j'entends à la radio, j'entends à la radio parfois, je vous écoute nuit et jour, hein, je suis branchée sur Europe 1, et j'ai déjà appelé plusieurs fois d'ailleurs, et j'aime pas quand on dit les vieux, c'est pas beau. Alors moi je dis toujours, alors on me dit, vous êtes à la retraite madame? Ah non, je dis, moi je suis à l'âge du temps libre.
Ah c'est joli aussi, oui. Vous êtes une ancienne jeune. Vous êtes jeune depuis,
oui,
plus longtemps,
voilà,
que les autres en réalité.
Voilà, voilà. Oui, mais en fait, c'est pas l'âge que j'ai. Bon, l'âge que j'ai, je vais avoir 74 ans au mois de juin, mais je le crois pas. Moi, je suis bien avec des gens de 40 ans. Voilà. Donc, ben oui, je suis pas bien avec des gens de mon âge. En plus, je m'habille hyper moderne. Moi, j'ai des jeans. Ma petite fille m'a donné des jeans. Ils ont des trous là. C'est super ça. On mène comme ça.
Je crois fondamentalement qu'on a l'âge qu'on a dans notre tête. Le reste, on s'en fiche.
Exactement, exactement. Tout à fait.
Bon.
Et puis j'ai une profession aussi qui m'a permis de voir beaucoup de choses. Hein, donc c'était très intéressant. Donc j'ai vu des personnes âgées, des personnes jeunes qui étaient très âgées déjà,
oui,
et puis des personnes âgées qui étaient très jeunes d'esprit.
C'est la curiosité qui garde jeune aussi. Hein.
Exactement. Et puis je peins aussi, alors ça aussi, c'est intéressant.
Oui.
J'adore ça.
Quand on est curieuse, quand on est ouverte, quand on a des passions, des activités sympas,
c'est
ça,
vrai,
garde jeune, tout,
vrai,
ça.
Voilà. Alors là, je m'ennuyais maintenant. Alors j'ai décidé, je vais faire du bénévolat. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce que je pourrais bien faire? Alors j'essaie. Et là, je vais aller. Ça va être lourd ce que j'ai pris. J'ai pris les accompagnements pour les personnes, vous savez, qui sont. Qui vont partir
en fin de vie.
Voilà. Voilà.
Oui, mais Olga, c'est pas un hasard, après l'expérience que vous avez vécue, c'est pas un hasard que ça vous amène vers ça.
Et puis, je vais vous dire, je me suis occupée de ma mère qui m'avait fait un AVC et que je voulais surtout pas mettre à l'hôpital, dans la maison de santé. Donc, je travaillais, puis je rentrais vite. J'allais dormir à 3h du matin sur le lit pliant à côté d'elle. Voilà, après, mon mari a eu un problème, un cancer. Ben, j'ai fait nuit et jour. Et quand j'ai eu mon accident de voiture, j'ai fait des pieds et des mains pour sortir de l'hôpital 3 jours après, ou 4 jours après, pour l'accompagner chez sa cancérologue à Toulouse. Mmh. Et puis voilà quoi.
Olga, j'aimerais bien qu'on parle de ce bénévolat que vous allez faire dans ces conditions particulières, mais si vous le permettez, je dois faire une courte pause. Est-ce que vous voulez bien m'attendre?
Oui.
Je vous récupère de l'autre côté de la pub, d'accord?
Très bien, parfait.
Merci Olga, à tout de suite.
À tout à l'heure. Oui.
Envoyez vos messages à la libre antenne d'Europe 1 en tapant nuit au 739 21. 75 centimes plus coût du SMS.
Olga, vous êtes toujours là?
Oui. Attendez, je change de côté parce que je suis en train d'avoir des voices. Alors je passe de l'autre côté parce que ma télévision est branchée. Ça, c'est les portes chez moi que vous entendez. J'ai des portes de western.
Ah, des portes qui
dans ma cuisine. Oui. Non, de western, quand, vous savez, dans les films de western.
Les portes battantes,
voilà.
Oui, tout à fait.
Voilà.
Dites-moi, c'est intéressant ce que vous me disiez là, juste avant la pause. Vous allez devenir bénévole pour accompagner des gens en fin de vie. Je vous avoue sincèrement que je ne savais même pas qu'on pouvait être bénévole pour ce domaine-là. Je croyais que c'était un peu réservé à des accompagnants de professionnels de santé, en fait.
Non, mais c'est-à-dire que, en fait, je cherchais parce que je voulais, alors, les blouses roses, je cherchais pour faire du bénévolat un jour par semaine, ou voilà, aussi bien passer les nuits auprès de malades, ça me gêne pas parce que, bon, moi, j'ai déjà fait ça avec maman et avec mon mari, donc il n'y a pas de souci. Puis moi, je vous écoute, j'écoute Europe 1 nuit et jour. Moi, souvent, je suis debout à 4h du matin, j'écoute la radio, j'écoute Europe 1. Donc j'ai vu sur le, puisque je suis du Tarn-et-Garonne, je suis de Montauban, et j'ai vu oui, l'accent,
c'est bien agréable, ce petit sourire, exactement, ouais.
Et donc là j'ai vu sur la dépêche, le journal local, j'ai vu un pavé chercher des bénévoles, et donc j'ai téléphoné, la dame m'a rappelé cette semaine. Et donc, il y a une réunion qui va se faire dans 2 mois, et parce qu'il manque de personnes, justement, pour les accompagner. Alors, moi, j'ai même dit, si ce sont des personnes même qui sont à domicile, pour libérer un peu la famille qui s'occupe, parce que moi, je l'ai connue, hein, je m'occupais de maman, et tout en travaillant, hein, parce qu'en plus, elle était diabétique, hein, donc j'avais toujours peur qu'elle fasse des hypos, parce que c'était pas facile, elle était sous insuline, et... En fait, elle était d'abord sous comprimée, puis elle a eu un souci et on me l'a mise sous insuline. Mmh. Et donc, l'histoire de sucre lent, quand elle ne voulait pas manger, c'était pas facile. Et je vais vous donner, je vais quand même vous parler parce que ça, peut-être quand vous le, je sais pas si vous le savez, peut-être. Par exemple, le soir à 10h du soir, je lui ai écrasé une banane, pas trop mûre, sans sucre, parce que ça, ça permet de pas faire des hippos la nuit. C'est un sucre lent. Donc ça, c'est un diabétologue hein, qui l'avait préconisé à une de mes clientes qui au salon de coiffure, elle a failli me faire un malaise une fois où je l'ai sucré énormément pour que je l'ai sucré et heureusement j'avais du miel, je lui ai fait un thé, je lui ai mis beaucoup de miel et elle, lorsqu'elle est revenue à elle. Parce que je lui disais, mais votre fille, où est-elle? Elle est. Oula, vite, j'ai compris. Et j'ai tout de suite sucré. Elle m'a dit, je ne vous voyais plus dans la glace, après, elle m'a dit. Parce que bon, elle en faisait fréquemment, des hippos, et elle tombait chez elle et tout. Voilà. Donc moi, avec maman, j'avais toujours peur de ça. Donc, et alors, cette dame, justement, m'avait dit qu'elle avait été chez un spécialiste à Lyon et qu'il lui avait préconisé d'écraser une banane. Pour ne pas avoir de soucis la nuit. Mais pas une banane mûre, hein, une banane.
D'accord.
Hein, pas verte, bien sûr, mais d'écraser la banane à manger comme ça.
Okay. Voilà. Donc, mais alors, moi, je faisais ça à ma mère. S'occuper de votre maman, c'est une chose, mais avoir le courage d'aller s'occuper de gens que vous ne connaissez pas qui sont en fin de vie. Est-ce que vous avez, est-ce qu'on va vous former un petit peu, vous accompagner là-dedans parce que c'est pas évident.
Oui, une formation. Non, il y a une formation. Là, il va y avoir justement la dame qui m'a appelée, c'est hier, hein, c'est récent. Elle m'a dit courant juin, début juin, il y a une formation pour cela. Donc, mais moi, je suis habituée parce que maman est décédée sous mes yeux, mon mari est décédé sous mes yeux. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas facile, hein. Donc, mais je sais très bien, voilà, c'est pas comme si j'avais jamais vu de personne. Bon, mon premier décès, je l'ai vu à l'âge de 6 ans.
C'était qui ?
Donc, c'était quelqu'un de la famille aussi.
Quel est votre rapport à la mort alors ? Comment est-ce que vous appréhendez ça ?
Non, moi, j'ai pas peur de la mort. Non, pas du tout.
Non.
Non, pas du tout.
Et quel discours vous tenez aux gens qui sont en fin de vie quand vous leur tenez la main, vous leur parlez ?
Mais c'est-à-dire, oui, voilà, moi, à maman, c'était ça, à mon mari, pareil, voilà, quoi. Bien sûr, c'est très choquant quand c'est la famille, hein, parce que c'est douloureux, bien sûr.
Vous êtes impliqué émotionnellement beaucoup plus, bien sûr.
Voilà. C'est vrai que ça ne sera pas facile, hein, mais...
Vous êtes prête à ça ?
Moi, je pense que ces gens-là ont besoin justement d'avoir quelqu'un à côté, hein, parce que j'estime que quand nous sommes seuls, partir tout seul, c'est épouvantable, parce qu'il y a un côté de panique quand les gens vont partir, très certainement.
Oui, bien sûr, probablement. Mais je trouve que c'est très courageux d'aller le faire volontairement. Je trouve qu'heureusement qu'il y a des gens comme vous prêts à ça. Hein.
Voilà, alors moi, peu importe, je voulais aussi aller au petit frère des pauvres, vous savez aussi. Je voulais aller, chose comme ça. Par contre, on cherchait aussi, comment ça s'appelle ça ? Il y a un disque là pour les...
De quoi vous parlez là ?
Là, on cherchait aussi des personnes pour s'occuper, pour donner, faire les colis pour les gens.
Les restaurants du cœur ?
Oui, voilà. Voilà,
merci,
il y a ça
Fabrice.
Aussi. Bon. Voilà.
C'est mon réalisateur qui m'a glissé ça.
J'avais un trou. Oui, j'avais un trou de mémoire.
Du coup. C'est contagieux, le trou de mémoire. Voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué.
Et là, c'est vrai. Mais moi, j'ai des trous de mémoire, je vais vous dire. J'ai appelé Europe 1, d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que je me faisais des soucis. J'avais un problème. Je me disais, mais ça y est, tu vas avoir l'Alzheimer ou quoi ? Figurez-vous que la mémoire ancienne, je l'ai. Et la mémoire vive, je suis obligée de tout marquer. Les courses et tout, enfin voilà.
Mais ça ne serait pas lié à votre accident, ça ?
Si, voilà. Mais donc, il y a un chirurgien qui est passé, là, qui s'occupait des problèmes de la tête. Et un jeune homme de 23 ans, parce que ça m'inquiétait quand même, ce genre de choses. Et parce que je parle, puis si on me coupe, je dis, mais qu'est-ce que je disais ? Ça ne me revient pas. Auparavant, voilà. Parce que je dis à tout le monde, laissez-moi finir ma phrase, parce que sinon, voilà, les gens autour de moi le savent, donc ils me laissent finir la phrase. Mais si on me coupe, après, ça y est, j'ai le trou de mémoire.
Vous perdez le fil.
Donc, voilà. Alors, il y a un jeune homme de 23 ans qui a appelé dans ce chirurgien C'était Europe 1. Et il lui dit à ce chirurgien, écoutez monsieur, je n'ai plus de mémoire, je ne comprends pas, et qu'est-ce que vous avez eu? Ben, j'ai eu un accident de voiture, j'ai fait un traumatisme crânien. Donc le chirurgien a répondu, ben, vous n'aurez jamais plus la mémoire vive, c'est fini avec un traumatisme crânien. Donc je me suis dit, ben voilà, j'ai compris quoi. Je sais pourquoi j'ai ce problème-là. Voilà.
Parce que ça, on ne vous l'a pas dit après l'accident. Vous n'avez pas été. Il n'y a pas un neurologue qui s'est occupé de vous, qui vous a dit que potentiellement vous pourriez perdre cette mémoire-là, non?
Non, absolument pas. Non, pas du tout. Non. Quand je suis sortie de l'hôpital, bon, ben. Si après on m'a fait faire pour voir si j'avais pas des vertiges, choses comme ça. Voilà. Mais c'est tout.
Mais en tout cas, les acouphènes, voilà. C'était avant. Donc c'est pas. Ça, a priori, ça n'est pas lié à l'accident.
Avant. Je pense que c'est le bruit séchoir à main, ce bruit est constant dans le salon de coiffure.
C'est compliqué de connaître l'origine des acouphènes, parce qu'il n'y a jamais deux cas pareils. Chaque histoire est différente.
C'est vrai. Mais par contre, je ne suis pas sourde. Parce que on m'a dit, mais vous n'êtes pas sourde. Mais non, pas du tout.
Non, mais ça n'a rien à voir avec les acouphènes. Voilà. Hein, c'est autre chose. En tout cas, Olga, allez essayer un bon éthiopathe.
Voilà, oui, ben écoutez, merci de votre conseil. Hein.
Et c'est je vous très souhaite gentil que ça vous apaise, que ça apporte vraiment un mieux dans tout ça, d'accord?
C'est très gentil à vous, et puis je me permettrai de vous rappeler pour vous dire...
Pour nous raconter, ça va être... Oui, tout à fait, c'est intéressant de savoir comment ça évolue. Tout à fait.
Merci. Ben écoutez, dès lundi, je vais me mettre... je vais regarder, là, je vais aller voir la personne qui est tout près de chez moi,
okay.
Et lui dire donc j'ai ce souci-là, et si elle peut faire quelque chose pour moi. Voilà. Et dans ces cas-là, lorsque j'aurai trouvé quelqu'un qui me convient bien, et puis l'amélioration, je vous appellerai pour vous dire ce qu'il en est.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Olga, de votre
Et je vous remercie de votre amabilité, ainsi que les jeunes gens qui m'ont reçu.
Amandine et Hassan.
Voilà, tout à fait.
Message transmis,
merci.
Merci
de votre amabilité. Je vous écoute tous les soirs. Hein.
C'est gentil, Olga. Continuez
tous
comme ça.
Soirs,
merci, merci de cette belle fidélité. Je vous embrasse.
Voilà, moi aussi. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, bonne soirée.
Laissez vos messages à la libre antenne d'Europe 1 au 39-21, 50 centimes la minute.
Et j'accueille maintenant Raymond. Bonsoir Raymond.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Oui, et j'avais déjà appelé il y a un an déjà, sous votre antenne.
Oui.
Et pour vous raconter mon histoire, comment ça se passe depuis après ma retraite.
Moi, j'étais pas là il y a un an, alors votre histoire, je la connais pas. Vous allez me la raconter.
Oui, c'est pour ça, Caroline.
Oui.
Et ça fait 3 ans que je suis en retraite.
Mm-hmm.
Et bon, j'habite... Avant, j'étais dans une grande ville. Et maintenant, j'ai trouvé un endroit pas trop mal, mais c'est la solitude, c'est un petit village, par rapport à la grande ville où j'étais. Et pour moi, il y a des moments très, très difficiles de solitude, où j'ai dit, tiens, je vais vous appeler, parce qu'au moins, ça va me remonter un petit peu, donner un peu de courage.
Remonter le moral. Pourquoi vous avez quitté la ville, alors, si ça vous manque tant que ça?
Ah oui, parce qu'avant, quand je travaillais, j'étais en même temps, parce que j'étais dans le TP pendant 15 ans, c'était pendant mes 15 dernières années, puisque je suis
retraite. Attendez, que ce soit clair pour tout le monde, Raymond, TP, c'est travaux publics.
Voilà, TP, travaux publics.
Oui.
C'est-à-dire mes 15 dernières années, hein, puisque avant, j'étais dans le sport. Hein.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que mes 15 dernières années, j'étais en TP et j'étais responsable de comme gardien de l'entreprise.
Oui.
C'est-à-dire le soir, j'étais là-bas et je gardais pour éviter les vols, des camions, tout ça, etc. Ça a duré pendant 15 ans.
Mm-hmm.
Et comme c'était une grande ville, le soir, je pouvais sortir et je pouvais voir du monde. Et puis à l'époque, j'avais connu une femme. On avait vécu pendant 7 ans.
Oui.
7 ans de bonheur. Elle avait été belle, quoi. J'étais bien. Et on s'est séparés, disons, 3 ou 4 ans avant que je parte en retraite. Donc, ça a commencé, la solitude, à ce moment-là. Et arrivé à la retraite, alors je ne me dis pas que... Et comme je devais déménager, lorsqu'on est gardien, on finit de travailler, il fallait déménager, je ne peux pas rester dans l'entreprise.
Ah, c'est pour ça que vous êtes parti, alors.
Voilà. Et il fallait que je trouve un endroit, vite fait, parce qu'il y a d'être prévu de partir, d'où. Alors, j'ai un ami qui me dit, bon, il y a un endroit qui est pas mal, c'est vieux, tout ça. Je dis, bon, je vais voir. Et j'ai vu les kilomètres qu'il y avait à faire, c'était à 30 km de la grande ville, 30 km.
Mm-hmm.
Et juste comme j'ai vu l'appartement, magnifique, très très bien. Le bas, tout, ça me plaît.
Ah ben voilà, il y a du positif quand même dans tout ça.
Oui, la porte est bien, bien tout ça. tout. Mais ce qui me manque, c'est il se passe rien. C'est un petit village. Il se passe rien. Ça fait 3 ans que j'y suis. Il y a des moments, ça va pas. Hein. L'autre fois, bon, on n'a pas pu se connecter puisque je suis endormi, je suis fatigué. Bon, si maintenant, c'est sûr que t'es éveillé quand même. Bon, donc ici, il se passe rien pour moi. J'ai beau aller dans les, comment on dit ça, dans les associations.
Oui.
J'ai donné un coup de main de temps en temps, ça ne me suffit pas. J'allais donner un coup de main, par exemple, lorsqu'ils font une fête, par exemple, Halloween, je donne un coup de main. L'autre fois, ils ont fait un tour l'auto. De l'auto, bon, je suis allé donner un coup de main.
Vous impliquez dans tout ce qui est local.
Oui, mais c'est pas, ça me manque parce que vous voyez, je vois du monde, je vois plein de choses. Mais après, quand je rentre chez moi, c'est. Bon, j'ai beau avoir la télé, l'ordinateur, tout ça. Mais les gens que je rencontre, ils sont en famille. J'ai un groupe d'amis aussi, hein, que je vois de temps en temps, ils parlent, ils sont en couple.
D'accord, ouais. Si je comprends bien, votre solitude, elle est pas sociale, elle est amoureuse, en fait. C'est de ce côté-là que ça va pas.
Oui, et dès que je rentre chez moi, bon, c'est pas dit, tout de suite, ça me met en l'air, non. Quand j'arrive chez moi, je sens la solitude, vous êtes tout seul. Dès que je suis quelqu'un qui, bon, peut-être pas en solitaire, mais j'arrive quand même à faire beaucoup de choses. Je fais à manger, je fais des trucs, je m'occupe de mes vêtements, je fais tout, ça va. Mais je vois de la télé, bon, c'est pas ça, c'est bon d'avoir quelqu'un, moi si j'avais quelqu'un pour parler, pour... Vous savez, il y a des moments, je fais par exemple des semaines, sans avoir quelqu'un qui frappe à la porte. Vous voyez ce que je veux vous dire? Sans avoir quelqu'un qui vous dit « Ah, bonjour, comment vas-tu ?» Rien du tout.
Mais dites-moi, 30 kilomètres pour aller dans votre ancienne ville, c'est quand même pas très très loin. Qu'est-ce qui vous empêche de sortir là-bas, de retrouver des gens là-bas, dans des endroits plus vivants?
Je fais souvent. Mais je fais souvent, mais c'est comme je reviens, ça va pas.
Ouais, donc c'est vraiment la rencontre amoureuse là qui vous manque. Hein.
Ah oui, je crois parce que j'ai vécu des beaux moments. Des fois, je me dis, des fois entre les copains, parce que moi j'aime bien rigoler, je dis plein de trucs, c'est des gens qui sont en couple. Ah, des fois, je dis entre copains, oh j'ai fait trop de choses, le bon Dieu m'a puni, regardez comment je suis, comme ça. Je fais ça pour donner un peu de rigolade, quoi, pour pas qu'ils pensent, je me plains pas, quoi.
Et qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous faites pour rencontrer une femme? Est-ce que vous faites quelque chose au moins?
Ah oui.
Est-ce que vous attendez qu'elle tombe du ciel au coin de la rue?
Non, c'est-à-dire que... c'est-à-dire que déjà, j'étais un grand sportif. Je fais attention déjà à mon corps. Je fais attention à mes vêtements, comme disait la dame tout à l'heure. J'ai fait attention à mes vêtements, comment m'habiller.
Oui.
Je m'habille toujours un style sportif. Hein.
Vous mettez en valeur, donc vous faites attention à vous.
J'ai ma valeur. Oui. Je me coiffe souvent. Oui. Je me coiffe souvent et je range un peu... Vous savez, je fais toujours attention. Ma fille disait toujours, papa, tu es bien, j'aime bien tes pantalons, ils sont un peu sportifs, tu es bien. Elle est fière de moi. Elle a une quarantaine d'années,
oui.
Puisqu'elle habite dans les Yvelines. Et moi, j'habite dans le 77, un peu limite avec les Loirets, parce que c'est vraiment dans la campagne. Donc, si vous voulez, je suis à 30 km de Fontainebleau. C'est une belle ville que j'adore. Et elle me dit toujours, tu es bien, tout. Mais je ne comprends pas, je suis tout seul, et puis ça se passe tout seul, les amis.
Mais alors attendez, Raymond, vous vous habillez bien, vous vous coiffez, mais d'accord, mais concrètement, est-ce que vous allez dans des lieux de rencontre? Est-ce que vous êtes inscrit sur des sites? Comment vous faites pour essayer de rencontrer une femme? C'est pas le tout de s'habiller, mais il faut être au bon endroit aussi.
Non, c'est pas ça. Vous savez, comme j'étais plus jeune, j'allais, dans le temps, on allait en boîte, et en boîte de nuit. Je dansais, on pouvait rencontrer quelqu'un, tout ça. Voilà, il y avait de l'ambiance. Parce que moi, j'aime bien danser, hein. Même toujours, hein. Ou des fois, un exemple. J'ai des amis, l'autre fois, ils ont fêté leur anniversaire. Bon, un monsieur plus âgé, hein. Bon, le monsieur avait 70 ans, moi j'ai 65 ans. Mais ils ont invité du monde de la famille, etc. Mais savez-vous que pendant toute la soirée, ils sont mis à boire et à manger, c'est tout. Ils ont discuté de parler de rien, quoi. Moi, ce que j'aurais aimé, quand il y a des trucs comme ça, c'est danser un petit peu. Ça veut dire danser, rencontrer du monde, danser, moi, comme on aime ça, danser. Mais rester à boire et à manger comme ça, c'est souvent comme ça. Et moi, je n'ai pas l'habitude, moi.
Ah, c'est peut-être une question de génération. Mais pourquoi vous n'allez pas? Il y a des endroits où on danse.
Oui, je sais, on peut sortir.
Il y a des guinguettes, il y a des cours de danse aussi,
même
tout simplement.
Boîte, même en boîte, même si je ne danse pas beaucoup comme avant, moi, j'aime bien danser quand même. Hein. Je peux aller en boîte de nuit, hein. Vous savez, des discothèques, je peux aller. Même si je ne danse pas tout le temps, mais j'aime bien, moi. J'aime bien la musique de médecin qu'on passe et tout. Là, j'étais dans un milieu où il y avait toujours la bonne musique comme ça. J'écoute par exemple souvent la radio, tous les tubes qui passent. Par exemple, je vous disais tout à l'heure, j'étais en train de regarder des Vox. Hein? J'ai regardé, j'écoute tout ce qui se passe, quoi.
Ah, The Voice, pardon, j'ai pas... Oui,
je prononce mal. J'aime bien suivre un peu tout ça. Et j'aimais toutes les musiques, j'aime bien danser les danses de chez nous, ça veut dire le zouk, tout ça. J'aime bien tout ça, l'ambiance, rire.
Alors pourquoi vous n'allez pas dans des cours de danse? Parce que là, on s'amuse bien, on rencontre des gens aussi. Il y a partout des cours de danse.
Voilà, comme j'étais à Fontainebleau, et avant d'arriver à la retraite, quoi, avant de partir, de quitter l'endroit, j'étais inscrit dans un...
Non mais Raymond, je vous parle pas du passé, là, je parle d'aujourd'hui.
Oui, parce que c'est vrai, je parle trop passé, c'est pour ça que ça n'avance pas. Je suis trop dans le passé.
J'ai l'impression, oui, à chaque fois, vous me dites, il y a eu ça. Regardez devant vous.
Oui, on me l'a dit souvent, ça. Oui. On me l'a dit souvent, Raymond, on aurait dit que ma vie s'est arrêtée à ce moment-là, que dans le passé, où j'ai eu des beaux moments, où j'ai eu des moments vraiment... Comme pour rencontrer quelqu'un, pour moi, c'était plus facile. J'aime pas ce mot-là, draguer, pour dire, oui, madame, vous habitez comment? Moi, j'aime pas ça. Je veux que ça vienne tout seul. Oui, tout ça, mais tout ça, j'aime pas être là à dire oui, je vous invite pour votre numéro, tout ça. Non, j'aime pas.
Mais quelquefois, il faut forcer un peu le destin. Hein.
Oui, mais bon, est-ce que c'est parce que vous savez, comme j'ai travaillé dans une salle de muscu, là, bon, vous me dites, je parle toujours encore au passé. Bon, j'avais du monde. Autour de moi, j'ai travaillé même dans les discothèques, c'est pareil. Bon, mais les années ne se ressemblent pas, parce qu'avant, c'était avant. Puisque maintenant, c'est plus facile, les gens se rencontrent plus maintenant comme ça. Vous voyez? Les gens, je crois que la plupart des gens qui se rencontrent, ils vont plutôt sur leur vie, se rencontrer. Alors, mais avant, on se rencontrait comme ça. On se voyait, on parlait.
C'était paradoxalement, j'ai l'impression que plus il y a de réseaux sociaux, moins on se rencontre vraiment, pour de vrai.
Oui, on se rencontre. Voilà. Plus que, voilà. Alors, donc, pour moi, c'était pas ça. Et puis, bon, je vois des amis, j'ai des gens que je rencontre, tout ça. Et puis, ou des fois, on me dit c'est difficile. Ah, mais c'est vraiment pas difficile. Hein.
Mais pourquoi est-ce que vous n'aimez pas les sites de rencontres?
Oh, je sais pas.
Parce qu'il y a des gens qui font des belles rencontres. Hein.
Oui, il y a des gens qui font des belles rencontres. Bon, comme je vous dis que je ne suis pas dans un site de rencontres. Si, j'ai essayé, mais non, j'ai l'impression que c'est... Non, c'est... Ça ne va pas, je ne sais pas.
Vous voyez, on a plusieurs messages qui sont arrivés pour vous, Raymond, là, pendant qu'on se parle. Il y a Véronique qui nous dit « Il faut aller dans les thés dansants », c'est ce que je vous disais tout à l'heure.
Oui, je vous dis, les thés dansants, c'est des trucs qui se passaient beaucoup avant, puisque moi, j'ai travaillé un peu dans le domaine, hein. Bon, ça continue bien sûr. Les thés dansants. Mais j'aime. Je sais pas, dans les thés dansants, est-ce qu'ils mettent la musique que j'aime? C'est les thés dansants, c'est que les danses de salon, c'est accordéon, c'est tout ça. Mais je me vois pas encore dedans. Mais j'aime plutôt la musique de maintenant. Bon, il faut voir que les générations, ça change quand même. Hein. J'ai quand même 60.
Oui, puis je suis pas sûre que dans les thés dansants. Enfin, il y a les thés dansants, mais il y a aussi plein de choses. Vous savez, il y a des. Quand on parlait de cours de danse tout à l'heure, vous parlez de danse de salon. Oui. Mais il y a des cours de salsa, oui. Il y a des cours de rock. Il n'y a pas que des choses
oui,
ringardes.
Bon, tout ça, pas l'accordéon.
Hein. Non, mais on n'est pas, obligé de se subir une musique qu'on n'aime pas.
Ah ben, de toute façon, ici, j'ai pas ça. J'ai pas des cours de danse.
Oui, mais vous n'êtes pas très très loin d'une grande ville. Une fois de plus, 30 km, c'est pas loin.
Je pourrais aller parce que en plus je vais souvent. Hein.
Vous savez quoi? Ce que je peux vous conseiller, Raymond, c'est de faites la liste de ce que vous avez vraiment envie dans votre vie et programmez-vous pour ça plutôt que de regarder le passé. Regardez devant.
Oui, je vais trouver le passé.
En vous disant qu'est-ce que je veux vraiment moi dans les 3 ans, 5 ans qui viennent dans ma vie.
Vous savez ce qui se passe? Pardon.
Non,
ce qui se passe, j'ai des amis, des femmes que j'ai connues et qui me parce que vous savez, je suis sur la page Facebook aussi, j'ai ma page, et j'ai des amis qui font retour, et on a mis, hein, comment vas-tu, ça va et tout. Donc je reste toujours, vous voyez, ça reste toujours la même place, ça, en fait, quand il me dit, mais parce que je me fâche pas, moi, comme il y a une séparation. Alors il me revoit, ah, tu vas bien, tout ça, et ça, je fais bisous, tout. Et donc, c'est ça, j'ai l'impression comme si je vais en arrière au lieu d'aller à l'avant.
Mm-hmm.
Attends, je ne m'attarde pas, je ne dis pas que on va se revoir, non, mais ils ont des bandes de chez 2 mois et tout, c'est comme un salle de muscule, vous avez des élèves qui me voient, qui me tiennent, comment vas-tu, ça va, t'es en forme, et on voit que tu as la patate.
Oui, mais on entend vraiment que vous êtes quelqu'un de gentil, de chaleureux, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui vous apprécient, et d'ailleurs, il y a Corinne qui vient d'envoyer un SMS pour vous, qui dit, il est vraiment bien ce monsieur, quel optimisme, c'est vrai que la solitude, ça pèse, et elle laisse son numéro de téléphone, donc si vous le souhaitez, Hassan vous mettra en contact avec elle après notre conversation.
Mais je pense que un jour, j'espère, je pourrais vivre mieux que ça, que toujours en train de tout seul devant la télé, parce que je fais la cuisine, parce que je fais beaucoup de cuisine, moi. Quand je fais la queue, je n'ai jamais
Raymond,
la deux amis.
Vous avez entendu ce que je viens de vous dire?
Oui, vous m'avez dit pour que la fille...
La fille, c'est Corinne qui vous envoie un gentil message. Est-ce que ça vous intéresse quand vous mettez en relation avec elle tout à l'heure?
Oui, ça m'intéresse, oui.
Oui, parce que vous repartez sur le passé encore.
Oui, c'est vrai.
Faites un quart de tour et regardez devant vous, pas derrière.
Oui, 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 c'est vrai. C'est vrai qu'il faut que je regarde sur moi aussi, parce que je pense que c'est pas la vie. Hein. Vous avez raison, il faut que j'aille au-devant.
Prenez conscience de vos qualités, de tout ce que vous avez de bien, de positif, de tout ce que la vie vous a appris. Et servez-vous de ça pour aller de l'avant.
Ouais,
faire des choses que vous aimez, vous ouvrir à des nouvelles rencontres, à des nouvelles activités.
Oui, mais il faut peut-être que je déménage aussi. Je ne sais pas que j'aurais suffi pour changer, peut-être.
Bah, si vraiment vous vous sentez trop isolé et que vous avez les moyens de le faire, oui, bien sûr.
Oui.
J'ai l'impression que ça vous manque, la grande ville.
Oui, puisque vous vous rendez compte, pendant 15 ans, je n'avais jamais vécu dans une aussi grande ville. Hein. Bon, j'étais dans Normandie, dans une petite ville, mais là, j'étais quand même à Fontainebleau. C'est une ville où on ne sonne jamais. Ça, j'étais pas d'autres endroits. Je ne pouvais même pas arriver dans le fond le week-end à Fontainebleau. Il y avait du monde partout. Et tout d'un coup, vous vous retrouvez ici.
Alors peut-être, oui, peut-être qu'effectivement, il est temps de prendre une décision. Vous savez, la meilleure chose à faire quand les choses vont mal, c'est de prendre des décisions, plutôt que d'attendre et d'être passif.
J'attends, c'est trop. Ça fait 2 ans, là. J'attends trop. Et puis, comme vraiment, des fois, ça ne va pas. Des fois,
Alors, vous savez, quoi,
Raymond, peu, mais c'est pas bon.
Non seulement Corinne a laissé un message, mais maintenant on a Cathy qui nous dit « Homme charmant avec un accent chantant, j'adore danser ». Et elle vous laisse aussi son portable. Vous faites un carton plein ce soir, Raymond,
hein? Oui.
Et ouais,
mais
écoutez.
Bon. Moi, je donne trop l'impression d'être bien. C'est vrai, je suis comme ça. Et en fait, pour des moments, je ne suis pas bien. Mais je ne suis pas à me plaindre. Je ne dis pas quelque chose. Ah, c'est pas bien, j'ai ça. Je peux pas donner aux gens de la chaleur que de me plaindre moi-même.
Eh bien, ça, c'est très bien, c'est positif. Restez positif comme ça, gardez vraiment tout ce qu'il y a de bon en vous. Pardon, excusez-moi, vous voyez qu'il y a plusieurs femmes qui nous envoient des petits messages pour vous ce soir, qui ont envie de vous connaître. C'est déjà agréable, déjà, ça. Hein,
oui, c'est déjà.
Et puis, prenez des décisions pour avancer dans votre vie.
Ouais, j'avance,
si vous n'êtes pas bien déménagé, si vous vous ennuyez, que vous aimez danser, allez trouver des cours de danse qui vous conviennent.
Mais c'est-à-dire, c'est danser, hein. Quand j'aime danser, parce que je me trouve par exemple dans un endroit à danser, je danse, hein. Je rentre dans un cours de danse, je danse, j'adore, j'écoute la musique, je bois un coup, je danse, j'aime bien rigoler et tout.
Ouais. Très bien.
Mais dès que ça s'arrête, et je reviens ici, c'est calme.
Mais oui, parce qu'il n'y a personne pour partager cette intimité avec vous.
Personne.
J'ai bien compris que c'est ça qui vous manquerait, moi.
Oui.
Mais je suis persuadée que vous allez rencontrer quelqu'un.
Mais j'espère, bien. J'espère un jour être vivreux, quand
entre,
même.
Entre cet accent, il y a plein de douceur chez vous, il y a plein de douceur et plein de gentillesse, et je suis sûre qu'il y a beaucoup de femmes qui sont touchées par ça.
Bon, j'espère un jour vivre bien, quoi. Être heureuse tous les jours. Pas tout le temps, mais tous de rentrer chez moi.
C'est tout ce que je vous souhaite, ce bonheur. Raymond, on va se quitter, mais vous ne raccrochez pas. Hassan va vous récupérer pour vous donner les coordonnées des personnes qui nous ont laissé leur téléphone pour vous, d'accord?
Merci beaucoup.
Je vous souhaite le meilleur pour la suite, Raymond.
Merci beaucoup. À vous aussi. Hein.
Merci. Je vous embrasse. Ne raccrochez pas.
Okay.
Merci de votre appel. Au revoir.
Au revoir.
Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
Vous écoutez Europe 1. Il est minuit. Chanel Petit qu'on retrouve pour un nouveau point sur l'actu. Bonsoir Chanel.
Bonsoir Sabine, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, les Champs-Élysées saccagés lors de ce 18e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Magasins pillés et incendiés. Emmanuel Macron demande des décisions fortes pour que cela n'arrive plus. Nous entendrons le président de la République dès le début de ce journal. Dans le même temps, des manifestations pour le climat aux quatre coins de la France. Là, aucun incident. 45 000 personnes, rien qu'à Paris. Et puis la fin du tournoi Destination. Victoire de la France contre l'Italie cet après-midi, sans prestige certes, mais victoire quand même.
Europe 1.
Journée chaotique sur les Champs-Élysées à Paris. Regain de violence lors de cette nouvelle mobilisation des Gilets jaunes. L'immeuble d'une banque et des commerces incendiés, d'autres pillés. De nombreuses heures entre les manifestants et les forces de l'ordre. Bilan 237 personnes interpellées, dont 144 placées en garde à vue. Des blessés également, 17 parmi les policiers et les gendarmes, 42 chez les manifestants. Un pompier touché. Assez de pagaille pour que le président de la République rentre en urgence de son week-end au ski. Il s'est exprimé il y a moins d'une heure à la cellule de crise du ministère de l'Intérieur. Emmanuel Macron hausse le ton.
Sur les Champs-Élysées, ce qui s'est passé, ça ne s'appelle plus une manifestation. Ce sont des gens qui veulent détruire la République, tout avec elle. Et tous ceux qui étaient là se sont rendus complices de cela. Tous ceux qui étaient là. Et je crois que maintenant, nous devons d'abord en tirer toutes les conséquences et le comprendre, collectivement, et prendre des décisions claires, fermes, pour que ça ne se reproduise plus. Nous avons un cadre, nous sommes attachés au droit constitutionnel, mais nous avons aujourd'hui des gens qui, par tous les moyens, essaient de détourner cela simplement pour abîmer la République, pour casser, pour détruire, au risque d'ailleurs de tuer, on l'a encore vu avec l'incendie qui s'est produit ce matin. Beaucoup de choses ont été faites depuis novembre, mais très clairement, la journée d'aujourd'hui montre que sur ce sujet-là et pour ces cas-là, nous n'y sommes pas. Et donc je veux qu'on analyse très précisément les choses et que dans les meilleurs délais, on puisse prendre des décisions fortes, complémentaires, pour que cela n'advienne plus.
La réaction il y a moins d'une heure d'Emmanuel Macron. Le ministère de l'Intérieur a compté plus de 32 000 manifestants dans toute la France, c'est 4 000 de plus que samedi dernier. La satisfaction des organisateurs de la marche pour le climat. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé dans toute la France aujourd'hui, 18 000 à Lyon selon les autorités, pour demander au gouvernement d'agir contre le dérèglement climatique. 45 000 à Paris selon le cabinet Occurrence mandaté par Europe 1 et d'autres médias, manifestants de tous horizons et de tous âges.
J'en ai marre qu'il y ait plein de pollution. J'aimerais qu'on puisse bien respirer.
On est tous mobilisés pour le climat, contre le réchauffement climatique.
C'est important parce que c'est l'avenir de ma fille et de mes enfants. Qu'il faut faire comprendre aux politiques que ça ne suffit pas les petits pas de chacun et qu'il faut qu'ils passent à l'action.
À la même époque, l'année dernière, on avait de la neige et là, il fait beau, il fait chaud. Je pense que c'est mal parti. La Terre, elle est en train de mourir.
On a une vraie envie de voir les choses changer. Il y a plein de gens qui partagent les mêmes convictions, ça fait chaud au cœur et c'est important.
Des manifestants à Paris au micro Europe 1 de Claudia Bertram. Ils étaient également des milliers à Caen, à Saint-Étienne, à Anglette ou encore à Limoges. Des ennuis en perspective pour une conseillère régionale de Bretagne, ex-membre du Front National. Le président de la région annonce qu'il saisit la justice après un de ses tweets aujourd'hui, effacé depuis. Dans ce message, Catherine Blin commentait l'attentat dans deux mosquées en Nouvelle-Zélande avec ce message « œil pour œil, suivi de points de suspension. 50 personnes sont décédées dans cette attaque hier. Nouveau bilan communiqué ce soir. Les sports, petite victoire, mais victoire quand même pour le 15 de France dans le tournoi des 6 nations cet après-midi. 25 à 14 contre l'Italie. Les Bleus terminent la compétition sur un bilan négatif avec 3 défaites contre le Pays de Galles, l'Angleterre et l'Irlande pour 2 succès face à une Écosse diminuée et donc face à l'Italie. Écoutez la réaction à la sortie du match de Maxime Médard.
Honnêtement, oui, on a eu beaucoup de lacunes sur ce match, on a failli le perdre. Je pense qu'il faut souligner le caractère de notre équipe qui a rien lâché. C'est sûr qu'il y a beaucoup de travail encore à faire en vue de la Coupe du Monde, mais voilà, c'est un match gagné, mais c'est en souffrance. On manque de confiance, on a eu du mal à mettre notre jeu en place. On n'était pas à notre meilleur niveau.
Maxime Médard, joueur du 15 de France au micro Europe 1 de Simon Rubin. Le foot, la suite de la 29e journée de Ligue 1 ce soir. Victoire sans appel de Saint-Étienne face à Caen, 5-0. Guingamp au-dessus de Dijon, 1-0. Match nul entre Angers et Amiens, 0-0. Et entre Nîmes et Strasbourg, 2-2. La météo, demain Valérie Darmon, ça va pas en s'améliorant.
Tout à fait, près de la Manche demain matin et puis de la façade atlantique aux côtes de la Manche jusqu'aux Ardennes l'après-midi. C'est un temps instable qui va s'installer depuis cette nuit jusqu'à demain soir avec une succession d'averses parfois fortes et d'éclaircies de temps en temps. Du sud-ouest à l'Alsace, vous passez la plus grande partie de votre journée sous les nuages et sous la pluie. Dans les Alpes, le massif central, le Jura et les Vosges, il va neiger de nouveau dès 1200 mètres d'altitude et puis 700 à 800 dans la soirée. Du Roussillon au sud de Rhône-Alpes, jusque sur la côte d'Azur et la Corse, les nuages bas du matin vont laisser la place tout de même au soleil l'après-midi. Mais le vent va souffler fort, jusqu'à 90 km/h en rafale. Les températures dans ce contexte sont évidemment en baisse, avec pour l'après-midi des valeurs entre 8 à Verdun et 20 degrés à Avignon.
Merci Valérie Darmon. Il est minuit, bientôt passé de 6 minutes. Et tout de suite, c'est la Libre Antenne avec Sabine Marin.
Europe 1, 23h, 1h, la Libre Antenne. Sabine Marin.
Ensemble sur cette libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez bien sûr continuer à nous appeler si vous souhaitez prendre la parole. Vous faites le 39-21 et vous tomberez sur Hassan ou sur Amandine qui vous guideront jusqu'à moi. Si vous souhaitez participer à cette émission par SMS comme vous êtes nombreux à le faire depuis le début, vous faites le 7-39-21 en commençant bien par le mot nuit. Vous savez que vos SMS sont importants pour soutenir quelqu'un, apporter une idée, un mot ou simplement demander à entrer en contact pour poursuivre la conversation après l'émission. Par téléphone 3921, par SMS 73921.
23h, 1h, la Libre Antenne sur Europe 1. Sabine Marin.
Et nous allons faire maintenant la connaissance de Madeleine. Bonsoir Madeleine.
Bonsoir, je vous remercie de tout mon cœur. J'ai attendu un bon moment, mais c'est important que je vous entende.
Je suis désolée, je suis ravie de vous accueillir maintenant Madeleine. Alors racontez-moi ce qui vous amène.
Alors, je vous téléphone parce que j'ai eu un coup de blues, quelque chose de terrible, et tout mon passé est remonté. Et ça m'a fait comprendre que le traitement, je le dirai tout à l'heure, que le traitement que nous recevons, parce que je suis depuis 5 ans, j'ai la maladie de Parkinson.
Oui.
Et il y a deux ans et presque 3 ans, je suis tombée sur la terrasse de notre maison. Je suis tombée sur un beau pot avec plein de plantes. Et je suis tombée là-dessus, en voyant le ciel, les nuages, et je me suis fait une scoliose. Oui. Donc, j'ai la maladie et la scoliose. Donc, j'ai bu beaucoup à Nice. J'ai eu beaucoup de, comment on appelle ça, des piqûres, des perfusions. J'ai eu une opération du dos. J'ai marché avec 2 cannes. Comme je ne me laisse pas aller, j'ai eu, il y a 30 ans, un très grave accident. D'où on sort rarement vivant. Je suis sortie vivante avec mon mari qui m'a sauvée.
Et j'ai été brûlée. Un accident de quoi ?
D'avion.
D'avion ? Ah.
Oui. J'avais gagné les billets en Alsace.
Ouais.
Ça fait maintenant 30 ans et je suis sortie de cet avion. Mon mari m'a sauvée. J'étais la seule brûlée, la seule gravement blessée. J'ai fait mener une bataille. Je ne sais pas si vous êtes déjà brûlé un petit peu quelque part. C'est atroce.
La douleur donc est mentale, oui.
Oui, donc ça s'est arrêté au bout de mes doigts. Donc j'ai gardé mes doigts, la moitié du visage et tout le côté droit de mon corps. Mais je m'en suis sortie après 2 ans et demi. Et si vous me verriez maintenant, vous diriez, mais Gerda, ce n'est pas possible, ce n'est pas vous. Bon, il y a 30 ans qu'ils sont passés et je ne vous ai pas appelé pour vous confier cet événement qui a été connu de partout, mais cet événement m'a fait découvrir la foi, parce que dans ma chambre d'hôpital, il y avait, quand je me suis réveillée, j'étais une momie, puisque j'étais brûlée à 75% de mon corps, donc tout était en mailloté. Et j'ai vu la rondeur, j'ai regardé, c'était la montre, et puis une croix en bois, très grande. Eh bien, vous savez, j'aurais pu dire, si tu existais, mon Dieu, tu m'aurais sauvé, comme mon mari et les autres personnes. J'étais la seule réellement brûlée de l'avion. Eh bien, vous voyez, j'ai dit, aide-moi. Et je suis devenue toute autre femme. Je ne viens pas me pleurer et me plaindre. Non, ce soir, j'ai eu un autre choc. parce que, tenez-vous bien, depuis 5 ans, je me bats avec une maladie qu'on ne peut pas encore guérir. Mmh. Et c'est la maladie de Parkinson. Mmh. C'est pour ça que vous m'entendez ma voix trembler.
Quel âge avez-vous, Madeleine?
J'ai dépassé la 60aine.
Donc vous avez été diagnostiquée à 54?
On
vous a diagnostiqué la maladie à 54 ans.
Oui, oui. Mmh, écoutez, 54 ans. Le problème, c'est que j'ai des moments où je ne me rappelle pas. On oublie, cette maladie est elle est méchante. Hein. C'est-à-dire, il faut avoir une volonté de rester soi-même, de rester coquette, de s'habiller comme vous l'avez fait avant. Et on sait que petit à petit, ça s'agrandit, ça devient plus important. Et c'est ça qui, ce soir, m'a fait du mal, parce que je me suis joliment habillée aujourd'hui. C'était une sortie, comment dire, puisque je ne sors plus beaucoup, étant donné que j'ai tellement mal dans le dos. Et en plus, je suis pendant 3 semaines au CERS. Le CERS, c'est ce grand ensemble qui accueille, vous savez, les footballeurs qui se font des fractures, des accidents de voiture. Et ils ont tout ce qu'il faut pour renaître à la vie. Oui. Donc j'ai des bains, j'ai des massages, j'ai tout ce qu'il faut. Mais comme j'ai la scoliose, elle se réveille par moments. Et je marchais il y a encore un mois avec 2 cannes. Et le Seigneur m'a laissé, je ne veux pas me vanter, mais j'ai une chance. On me demande où j'ai mis mes rides. J'ai dit, mais non, tu n'as pas de rides. Mais non, madame, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, j'ai accepté ce qui est arrivé et ça m'a rendu, comment dire, on ne me voit pas souffrir, on ne me voit pas. C'est pour ça que je voudrais comme donner un petit message à tous ceux qui ont cette maladie. On ne la choisit pas. Si on a la chance d'être à deux, c'est plus supportable. Mmh. Mais jusqu'à ce que votre compagnon qui est gentil, qui fait tout, parce qu'on ne peut plus rien faire, moi je ne peux plus repasser, je ne peux plus coudre.
Alors j'allais vous demander, comment est-ce que ça a évolué pendant ces 5 ans? Ça a été rapide comme évolution ou pas?
Plus ou moins. Moi, je trouve que ça va vite. Pas vite, mais c'est les médicaments qu'on prend également. Il faut les prendre à l'heure précise. Et c'est ce soir, après avoir pris les médicaments d'avant l'heure, avant qu'on ne se rencontre, eh bien, je suis devenue tout à coup, comment dire, nerveuse. Je lisais les revues que j'étudie toujours parce que au téléphone à France Parkinson à Paris, eh bien, ils vont vous envoyer, vous abonner. Si vous avez envie de faire quelque chose, vous pouvez le faire vous-même pour que l'argent rentre. Parce que c'est atroce, la maladie de Parkinson. Il y en a d'autres aussi. Mais vous voyez dégringoler. Alors, je marche déjà avec 2 cannes. Maintenant, j'essaye de marcher droit.
Mais ça, c'est d'autres choses, Madeleine. C'est lié à la scoliose. Ça, c'est pas lié au Parkinson.
Non, non. Ça, c'est... Oui, maintenant, excusez-moi, j'ai mélangé, oui, puisque c'est à la marche. Mais on ne peut plus parler comme avant. Moi, c'est commencé depuis 3 semaines. Quand je parle, je perds les mots. Mm. Et je cherche. Ah oui, j'étais là. Vous me demandez mon numéro de carte, le numéro de la voiture. J'ai dit, Fernand, fais-moi un petit papier où on achète un tout petit carnet. Note-moi le numéro de téléphone, le numéro. Voyez, c'est à vous d'organiser votre nouvelle vie.
Bien sûr. Est-ce qu'on vous a proposé la stimulation neurocérébrale, l'intervention chirurgicale?
J'en ai tellement eu, je veux dire, de l'anesthésie. Et je vais en demander. Parce que, comment ça s'appelle? Des revues que je suis abonnée tous les mois, je reçois tout ce qu'ils font pour les gens. Et c'est pour ça que, comme j'habite maintenant dans le Var, on essaye un brûlé qui est aussi pas brûlé. Voyez comme je mélange. Vous me dites quelque chose.
Je vous parlais du Parkinson et de certains parkinsoniens qui sont éligibles à une opération qu'on appelle la stimulation cérébrale. Et qui donne de très bons résultats aussi. Est-ce que votre neurologue vous a proposé ça?
Vous permettez que je vais chez mon mari pour lui poser la question, parce que là, la maladie m'empêche de comprendre ce que vous voulez que je fasse. D'accord, vous comprenez?
Il n'y a aucun souci, Madeleine. Il n'y a aucun souci. Prenez le temps, passez-moi votre mari si vous voulez.
Oui, merci. Fernand, la dame que j'ai au téléphone, elle est gentille, et elle veut te dire qu'il y a des malades qui font... je ne sais pas, tu veux écouter ce qu'elle veut te dire?
Oui, bonsoir.
Bonsoir Fernand, je crois que c'est un peu de stress là pour Madeleine et qu'elle a besoin de souffler deux secondes. Je lui demandais si pour le Parkinson, son neurologue lui avait proposé la stimulation cérébrale, l'intervention chirurgicale du cerveau qui peut aider dans un cas comme ça.
Oui, il a proposé, mais malheureusement, l'âge, c'est plus faisable.
Elle n'est pas éligible, voilà, c'était la question que je lui posais, non. Savoir si elle était éligible à ça.
Ah non, elle n'est pas éligible à ça. Non. Non, on était à la Timone à Marseille, et puis il y a 8 jours, et puis elle a augmenté un peu les médicaments, et elle a supprimé un autre médicament, et puis elle a augmenté la... c'est un roulement constant, quoi.
Voilà. Elle prend de la dopamine, j'imagine.
Oui. Là, il a augmenté. Elle prenait une pilule, et puis là, un et demi. Et puis, il faut attendre maintenant la réaction. Il faut un mois quand même pour savoir est-ce que c'est efficace ou pas, quoi.
C'est qu'il y a quand même... Voilà. J'aurais tendance à dire que pour cette maladie, comme pour pas mal d'autres, il faut tenir bon jusqu'à ce que les secours arrivent. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de traitements. L'idéal, c'est vraiment de trouver le bon traitement. Alors, non seulement il y a beaucoup de traitements, mais il y a des mélanges de traitements entre eux qui peuvent donner des bons résultats. Donc, il faut tester des nouvelles techniques, il faut tester des nouveaux dosages. Oui. Il ne faut pas hésiter à...
Oui, mais ça, c'est un effet. Il faut toujours attendre à 2 mois. Ce n'est pas immédiat, quoi. C'est ça le problème, ouais.
Tout ce qui touche au cerveau, c'est comme la dépression, ça prend un peu de temps.
Mais il faut qu'il y ait aussi également une scoliose, et ben tout ça va perdre, ouais. Quoi.
Là c'est plus compliqué pour la mobilité, ça, bien sûr.
Là on lui a fait une arthrodèse, et puis donc maintenant elle va au CERS pour faire de la rééducation. Quoi. Bon, il y a quand même une amélioration depuis 15 jours qu'elle y va, quand même une petite amélioration, quoi. Lorsqu'on est un peu dépressif, on ne veut pas sortir, c'est le problème, quoi.
Oui, mais ça aussi, c'est lié au Parkinson, ce sentiment de dépression.
Ah oui, oui, mais elle prend un antidépresseur quand même. Hein. Combien de jours 6 à tous les jours, ouais.
En tout cas, c'est une battante, votre femme.
Ah oui, oui. Allez, je repasse. Hein. Allez, bonne soirée.
Merci.
Écoutez, monsieur, et alors je me réjouis d'un côté, et c'est pour ça que j'ai senti partir mon courage. Et j'étais même un petit peu odieuse avec mon mari en me disant, tu ne peux pas dans les bras, il faut me lire ça. Et je me suis rendu compte que ça ne venait pas de moi.
Oui.
C'est pas moi qui lui disais
c'est
ça.
Pas vous, c'est pas vous qui parlez, c'est la partie de vous malade qui s'exprimait.
Voilà, c'est ma maladie. Et je me suis dit, avec qui, à qui je pourrais parler? Il fait les courses. Madame, je ne peux plus rien faire. J'ai trouvé une jeune fille, une jeune femme, elle a 52 ans, elle a. Et elle me fait tout. Quand je rentre, elle prend le manteau, les chaussures. C'est elle qui range. Je ne peux plus le faire. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. La cuisine, je ne peux plus que la cuisine parce que je pense que la scoliose que j'ai dans le dos, je marche penchée en avant. J'ai tellement mal. Et c'est en me reprenant. Alors je m'accroche à l'entrée, dans un portail on aurait cru que c'était fait pour ça. Je m'accroche régulièrement pour que mes seins ne touchent pas le bas du ventre tellement je suis déformée.
C'est ça qui est compliqué. C'est compliqué chez vous, c'est que la moitié de vos symptômes ne viennent pas du Parkinson, mais de cette scoliose et de cette douleur-là.
Mais vous avez deviné.
C'est ça.
Et alors, mon mari, c'est à partir de là qu'il est tellement... Il est doux, il n'est pas timide, mais il ne parle pas pour ne rien dire. Tout le monde l'aime. Ils disent toujours, parce que... Écoutez, je ne vais pas faire... Ça me vient... Ah oui, je sais maintenant quel âge que j'ai. Quel âge que j'ai maintenant?
60.
Pardon?
Vous avez 60 ans, Madeleine.
Non, je fais plus. Vous voyez, encore devant vous, ça m'arrive. Ça m'arrive que maintenant, ça me revient. Et avant, quand vous m'avez demandé, je ne savais plus.
C'est comme avec eux. C'est pas grave, Madeleine, c'est normal. Ça fait partie des choses qui sont liées à cette maladie-là.
Mais oui, tenez-vous bien. Je vais avoir 75 ans.
75?
Oui. Et si vous me verriez, depuis l'accident d'avion, je n'ai pas une ride. On me jalouse, dans ma souffrance, on me jalouse.
Oui.
Mes copines sont, il y a plein partout, moi je ne me rends même pas compte. Et j'ai des crèmes de La Roche-Posay, je prends le Lipicar,
On va éviter les publicités gratuites, Madeleine.
Oh, pardon. C'est pas grave. Non, mais c'est pour vous dire, personne ne pourrait croire par où je suis passée.
Mais même votre voix est jeune. Votre voix est très...
Oui, j'ai l'air jeune quand je vais chez le médecin. Quand on a fait plein de médecins pour trouver, et c'est le vertige que j'avais, et ne pas trouver les mots. Mais j'ai des risques. Je vais avoir prochainement à chaque mot. Ce soir, je me suis donné un effort immense pour pouvoir vous parler correctement. Mais tout le temps, je dis Fernand, qu'est-ce que je voudrais dire? Ce Fernand, il est toujours là. Et puis, heureusement, on a un petit Westy. On a été heureux jusqu'à maintenant. Mais je suis heureuse, même dans la souffrance, parce que je sais que je vais pouvoir, dans la semaine, parce qu'à Paris, il va y avoir, c'est le cœur de l'association pour les Parkinsoniens. Mmh. Et bien, il se retrouve dans tous les départements où il y a des responsables pour la maladie qui nous aident. Ben, ça va être une grande journée.
Oui, alors, Madeleine, moi, je pense qu'il y a plusieurs choses d'abord que j'aimerais vous dire. La première, c'est que vous avez énormément de chance d'avoir un mari qui est présent et qui vous aime et qui est gentil.
Ah oui. C'est pour ça que ce soir, j'ai feuilleté les revues de La Roche-Posay. Il regardait à la télé, il était assis avec moi. Et tout à coup, j'ai eu comme une chaleur. Et me voilà, mais tu m'écoutes pas? Regarde la page. Je me disais à la fin d'un quart d'heure, comme ça, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu as? Et bien, ça, il faut que je dise à mon médecin. Que j'ai senti que l'arrêt, parce que j'ai dû prendre après maintenant un autre médicament. Vous voyez, comme cette maladie, elle est méchante, mais elle n'est pas gentille avec nous. C'est pas vrai?
Par contre, il y a autre chose, c'est que la recherche avance énormément sur ce terrain-là.
Je l'ai lu ce soir.
Je suis persuadée que dans les années qui viennent, il y aura des solutions de plus en plus efficaces qui vont arriver.
Oui.
Vraiment.
Oui, mais ce sera nous qui l'avons déjà depuis, il y en a d'autres personnes qui viennent et qui sont très touchées. Et c'est pour ça que j'ai un petit peu, j'ai accepté de faire une fois par mois une petite réunion que moi j'ai plus besoin, comme des autres personnes, d'aller à Toulon, parce qu'un des responsables qui est aussi parkinsonien, je débute la semaine dernière, donc je vous fais une confidence, et bien on va organiser aussi des parkinsoniens, donc où j'habite, où est-ce que j'habite? Ça revient. La Roche-Posay, j'allais dire.
Est-ce que votre mari est à côté de vous? Il peut vous répondre.
Oui. Chérie, on habite dans quelle ville?
Saint-Raphaël.
Vous voyez, vous êtes la première à m'entendre comme ça parce que je ne me suis jamais dévoilée. Et j'espère qu'une chose, je n'ai pas téléphoné parce que j'ai bien fallu du courage, mais le temps que j'ai attendu, il a une voix très, très, enfin, il m'a fait beaucoup de bien. Ça doit être un charmant. Et vous, naturellement. Je vous écoute presque tous les soirs.
C'est gentil, Madeleine. Est-ce que vous vous sentez capable de rester encore un tout petit peu en ligne? Parce qu'il y a Virginie qui vient de téléphoner, qui aimerait nous parler à toutes les deux. Est-ce que vous voulez bien rester en ligne un petit peu?
Madame, oui, c'est même plus votre prénom.
Sabine.
Sabine, comme ma cousine. Ah, ça, c'est un prénom qui je resterai dans ma mémoire. Mais j'attends.
C'est gentil, Madeleine. On va accueillir Virginie toutes les deux. Bonsoir, Virginie.
Bonsoir.
Oui, bonsoir. Bonsoir.
Alors, je sais que vous appelez en réaction à ce témoignage de Madeleine. On vous écoute.
Oui, absolument. Bonsoir, Madeleine.
Bonsoir, je suis tout émue de vous entendre. Vous avez un petit souci?
Ah non, j'ai pas de souci du tout. Mais voilà, je voulais juste vous raconter quelque chose et vous proposer quelque chose. Il s'avère que moi j'habite en région parisienne. J'ai 45 ans.
Écoutez, moi j'avais 44 ans le jour de l'accident d'avion que j'avais il y a 30 ans.
Ah bah vous voyez, bah moi j'ai eu du bol, je prends plus l'avion, vous voyez, donc...
Je l'ai repris l'avion.
Alors on vous écoute Virginie.
Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que, moi je fais partie d'une association qui n'a rien à voir avec la maladie de Parkinson, qui est une association en fait de sauvetage de chiens. Et il s'avère que j'ai récupéré bon, plusieurs chiens, mais le premier chien que j'ai récupéré, c'était une dame âgée qui avait un cancer et qui n'avait pas de famille, avec laquelle j'ai créé un lien. Et le deuxième chien que j'ai récupéré, c'était une dame qui avait la maladie de Parkinson, qui, elle, n'avait pas la chance d'avoir un mari aussi merveilleux que vous. Elle était seule, elle était très seule. Et en fait, au début, donc moi, le chien était chez moi, et moi, on s'appelait régulièrement. Alors au début, c'était pour donner des nouvelles du chien. Et puis après, de fil en aiguille, en fait, on s'est rendu compte que bah, y avait un lien qui se créait entre nous et on s'appelait pour se parler quasiment tous les jours de tout et de rien. Et que quand parfois elle perdait les mots, je disais, bah, c'est pas grave, on s'en fout, on trouvera un autre mot, c'est pas grave. Et en fait, ce que je voulais éventuellement vous proposer, si ça vous intéresse, c'est que... Ben, éventuellement, si vous voulez prendre mon numéro, que on puisse s'appeler, enfin, que vous puissiez m'appeler quand, par exemple, vous avez un coup de mou, quand vous avez un coup au moral, quand vous avez un truc drôle à me dire, quand n'importe quoi.
Et puis, pardonnez-moi, mais il me semble, madame, que vous avez un chien aussi, vous.
Oui, j'ai un vrai
voilà,
chien.
J'ai bien compris ça tout à l'heure, entre les lignes. Vous avez des points
communs. Il est adorable. Écoute, je suis très émue, vraiment, parce que Irinski, il sent quand je suis pas bien. Il vient se coucher sur mon ventre. Il me regarde. Depuis que je suis malade, ce qu'il faisait jamais, il gratte à la chambre à coucher.
Ils savent, hein.
C'est
ils
en général savent, le matin, comme s'il voulait me réveiller. Et on a compris, on a mis des vieilles, pour être sur le lit. Eh bien, il se couche entre mon mari et moi. Et ça, il ne le fait que depuis que je suis touchée par cette maladie qui augmente. Parce qu'au début, c'était pas aussi fort que maintenant. Oui. Et pourtant, j'ai accepté de rejoindre Jacques, qui est aussi un parkinsonien, qui vient de Fernand Edmond de Toulon. Et il est venu nous rendre visite parce que j'étais d'accord de l'accompagner, de réunir des parkinsoniens de Toulon. Et de quoi ou encore Fernand. Il veut réunir qui? Toulon et Saint-Raphaël. Et j'ai dit oui. J'oublie pas. J'oublie toujours ce que j'ai eu. Je pense toujours aux autres.
Et Madeleine,
et ça me fait du bien parce que j'ai la foi. Je sais pas. Là, si j'avais pas la foi, je ne serais plus là.
Madeleine, est-ce que vous acceptez la main tendue de Virginie?
Oui.
Vous acceptez?
Ah ben, ça me fait très plaisir
d'entrer en contact avec elle et de pouvoir l'appeler quand, parce que vous savez. Comme de nombreuses maladies, dans le Parkinson, il y a des hauts et des bas. Il y a des jours où ça va, des jours où ça ne va vraiment pas.
Oui, oui.
Et quand ça ne va vraiment pas, c'est important d'avoir quelqu'un, d'avoir une oreille aussi.
Ah oui, c'est vrai. Oh, que ça me fait plaisir.
Si je puis me permettre, moi, la maman, en fait, du chien que j'avais accueilli, le chien, il est arrivé chez moi, il avait 11 ans et demi, il est mort, il en avait 15. Hein. Il est resté 4 ans chez moi. Et la dame, en fait, qui s'appelait Marie-Pierre, moi, je lui disais, si vous voulez, vous m'appelez quand vous voulez, etc. Et on était, on parlait vraiment de tout et de rien. Et c'était...
Ça fait tellement de bien, si on a quelqu'un qui parlait. Hein,
Oui, et puis c'est surtout qu'en plus, ça l'a changé parce qu'elle était beaucoup avec soit des gens qui avaient la même maladie qu'elle ou bien le corps médical. Alors que moi, j'ai rien à voir dans l'histoire, en fait. Moi, je suis j'ai pas le même âge et je suis complètement extérieure. Donc, je peux évidemment entendre et comprendre ce que vous me dites. Enfin, en tout cas, elle, ce qu'elle me disait. Mais en même temps, c'était entre guillemets, alors je vais pas me lancer des fleurs, mais un peu comme une bouffée d'oxygène.
C'est ce que j'allais dire, vous apportez un souffle nouveau, un souffle différent,
ouais,
en tout cas.
Oui, c'est ça. Et puis, en plus, bah, j'avais pas entendu que Madeleine avait un chien, mais en plus de ça, voilà, c'est un lien en plus qui fait que on peut s'entendre et moi j'en ai 5 hein, à la maison là et du coup on peut parler on peut ne pas parler de la maladie et de parler du fait qu'ils nous rendent complètement chèvres.
Je pourrais lui raconter
pardonnez-moi Virginie, Madeleine, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vous donne le téléphone de Virginie et que vous puissiez être en contact toutes les deux?
Oui, voilà, pas de problème.
On va faire ça.
Et elle habite Paris ?
Elle est en région parisienne, c'est ce qu'elle nous a dit.
Ouais,
ce qu'on va faire, Madeleine, c'est que je ne veux pas vous fatiguer davantage. Donc, je vais vous laisser. Je vais rester avec Virginie pour continuer à discuter avec elle.
C'est super.
On va vous laisser sur cette belle énergie, Madeleine. On va vous embrasser très, très fort. Mais surtout, vous ne raccrochez pas.
Votre... Mais je, vous savez quoi, je prendrai un jour le courage de vous déranger et je vous tiendrai au courant comment ça s'est passé. Et... Parce qu'ils font tellement de recherches, ils font tellement de recherches. Moi, j'ai dit, si ça continue comme ça, je vais aller à une radio et je vais secouer tout le monde. Bien sûr, tout le monde a besoin d'argent, ça c'est sûr, toutes ces maladies.
ils vont trouver quelque chose. Il faut garder espoir, Madeleine.
Et vous savez quel est mon espoir? Que je rencontre quelqu'un. Parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle, alors je peux vous le dire, puisqu'il n'y en a plus malheureusement, ça fait quand même 30 ans, et il est encore de bonne... Ben oui, il est actuel. J'ai écrit le livre La vie quand même. Mm-hmm. La vie quand même, c'est toute l'histoire de ce que j'étais avant,
Ça résume qui vous êtes, Madeleine, ce titre-là.
Pardon?
Ça résume qui vous êtes, une battante.
Et vous savez... Ce qui est aussi formidable, c'est que le médecin qui m'a fait les greffes, qui est encore en vie, il m'a écrit dans le livre d'or, il m'a écrit Gerda, vous porterez toujours des traces de ce, parce que je m'appelle Gerda Madeleine. J'aime bien qu'on m'appelle aussi Madeleine. Et quand je suis autre part, je prends mon vrai prénom, c'est Gerda. Et Gerda veut dire protectrice.
Oui.
Excusez-moi, vous êtes de quelle origine au départ? Vous avez un joli accent.
Alsacienne, il me semblait bien, oui, ça s'entend, oui, tout à fait.
D'accord. Il y a un petit accent un petit peu allemand, et moi, mon père est hongrois. Donc ça sonne un peu...
Dans la même résonance.
Oui, ça sonne un peu pareil.
Et de toute façon, ce médecin qui m'a greffé toutes les greffes, il m'a écrit, écoutez, je trouve ces paroles merveilleuses. Gerda, vous porterez toujours des traces de vos souffrances, mais vous avez gardé en vous une espérance et une force qui vous restera à jamais. Et quand je pense tout ce que j'ai pu faire, l'association pour les enfants brûlés de France, à la Roche-Posay, je pourrais vous parler pendant des heures, et je pense que c'est ça qui m'a poussée d'accepter Jacques, qui va m'entraîner, parce qu'on s'entend bien tous les deux, on a la même maladie, alors, donc on s'entend bien, bien que l'on s'entend, ça fait du bien de voir l'autre. Hein. Et moi, je suis vraiment heureuse que vous m'avez accepté de parler si longtemps à la jeune femme qui a du téléphone, parce que là, je ne sais pas si je vais dormir cette nuit. Et si vous avez des idées, ou si tout à coup, il y a des coïncidences. Dans ma vie, il y a toujours... Regardez ce soir, vous ne trouvez pas ça formidable de parler avec vous deux et d'entendre quelqu'un qui s'en est sorti et qui n'a pas rien changé dans sa vie, mais qui cherche désespérément. Et comme je perds beaucoup de ma mémoire, bah oui, c'est la mémoire aussi qui est touchée, j'aimerais tant réécrire un deuxième livre où j'écris, j'avais déjà le titre, je l'ai dit à mes amis et mon mari, ils se sont mis à rire. Ils se sont dit, mais tu ne peux pas prendre ça, ce n'est pas possible. Je voulais un autre titre en disant « Pourquoi moi ?» Alors, il y a, je crois, au moins 6 personnes qui ont donné ce titre au futur livre. Je ne peux pas le prendre. Vous voyez, alors on a comme ça des anecdotes qui font rire un peu parce que...
Est-ce que je peux juste te dire une chose? C'est très marrant parce que... moi, j'ai appelé parce que votre témoignage m'a émue et que je me suis dit que si vous acceptiez, je serais ravie de vous aider, enfin de vous aider à ma petite échelle, bien entendu. Mais moi, mon métier, c'est auteur, c'est-à-dire que j'ai écrit 2 livres qui ont été édités et je travaille pour des journaux, etc. Oui,
vous étiez faite pour vous rencontrer, mesdames.
Mon métier, c'est l'écriture.
Parce que je ne peux plus. Je ne peux plus écrire avec la maladie.
Voilà.
Alors c'est très bien. Ne bougez pas Virginie. Madeleine, on va en rester là si vous voulez bien.
Oui.
Je pense que vous allez pouvoir continuer cette conversation avec Virginie pendant les jours, les semaines et les mois qui viennent. Merci.
Je viendrai au courant.
Merci de votre appel, Madeleine. Ouais. Je vous serre dans mes bras. Je vous embrasse de tout mon cœur.
Et moi, je vous souhaite une chose, c'est de garder votre sourire à toutes les deux. Vos yeux, je vous vois, vous êtes toutes les deux mignonnes et vivez la vie. Soyez heureuse de pouvoir se servir de réconforter tous ceux qui nous appellent et qui ont besoin d'une main tendue. Et ben, ce soir, c'était moi qui avais besoin et ça me donnera encore plus de courage pour faire bouger les choses parce que je n'ai plus peur de rien.
Formidable.
Que je puisse avoir n'importe qui devant moi, c'est un homme, c'est un cœur, ce sont deux mains et des yeux et un sourire. Voilà.
Merci, merci Madeleine. Alors surtout ne quittez pas, Hassan va vous récupérer et vous donner les coordonnées de Virginie, d'accord?
À bientôt.
Je vous embrasse, Madeleine.
Ça marche, à bientôt.
Au revoir. Virginie, vous restez en ligne avec moi, s'il vous plaît.
Oui.
Parce qu'il y a quelque chose qui m'intrigue. Vous me dites que vous vous occupez d'animaux. Racontez-moi un petit peu ce contexte-là, parce que peut-être qu'on peut aussi, nous, vous aider maintenant et faire tourner cette chaîne de solidarité autrement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider avec ces toutous? Et d'où ils viennent? Comment vous en êtes arrivé là?
Alors, j'en suis arrivée là. Alors, moi, j'ai une vie très compliquée, mais où je vais très bien. Hein. J'ai une mère complètement folle et enfin bon, tout va bien. Non, mais alors les gens me disent oh non, mais elle est pas folle, elle est paranoïaque, elle est machin. Je dis bon, elle est folle. Hein, en gros, on va dire ça comme ça. Et en fait, j'ai toujours trouvé mon salut dans les animaux. Et j'ai toujours, vous savez, il y a des gens qui ont l'instinct maternel. Moi, j'ai l'instinct animal, en fait.
Je comprends bien, tout à fait.
Voilà. Et c'est assez marrant, parce que quand j'ai entendu Madeleine, Gerda, voilà, c'est ça, c'est un espèce d'instinct, comme ça, c'est de protection. Et du coup, donc moi, j'ai toujours eu des animaux. Et donc, en fait, je fais partie de deux associations. Il y a une première association qui s'appelle Tekel sans doux foyer. Qu'on peut trouver donc sur Internet, où on récupère des chiens. Donc c'est une association, on récupère des chiens, soit des chiens qui sont dans des élevages, d'anciens reproducteurs d'élevage, soit des particuliers qui ne veulent plus de leurs chiens, soit des chiens qu'on va chercher en refuge. Mmh. Les chiens sont placés en famille, alors soit en famille, ce qu'on appelle relais, c'est-à-dire on récupère les chiens, c'est pas un chenil hein, si vous voulez.
Ils les gardent en famille relais pour les placer après, oui.
Ouais, mais si vous voulez, c'est pas un chenil, c'est-à-dire qu'ils sont en appartement ou en maison chez des gens. Donc, il n'y a pas le côté cage, machin, etc. L'association fait en sorte que les chiens soient stérilisés, vaccinés, détartrés, pucés, vermifugés, etc. Et les familles relais font le travail de voir un petit peu comment se comporte le chien. C'est-à-dire, est-ce qu'il est ok homme, ok femme, chat, ok enfant, ok chat, etc. Mmh. Voilà. Et en fait, moi, je suis rentrée dans cette association quand j'ai adopté mon premier teckel, qui avait 10 mois et demi à l'époque, qui était très jeune. Et ensuite, je me suis rendu compte, et j'ai adopté très vite, j'ai pas adopté justement, j'ai été famille d'accueil pour le dénommé Safran, dont la maman était une dame âgée, dont le fils se foutait totalement, et qui avait un cancer du côlon en stade terminal, bref. Et donc du coup, moi j'ai gardé ce chien pendant 4 ans, et donc en fait l'association ne fonctionne que par le biais de dons. Donc, en fait, il y a des parrains et des marraines, etc. Et c'est des chiens, souvent, quand ils arrivent, qui sont trop vieux ou malades, ou les deux, qui ne sont pas adoptables. Donc, ils sont placés dans ce cas-là, dans ce qu'on appelle des familles d'accueil. Et donc, moi, je suis famille d'accueil. Donc, j'étais famille d'accueil pour Safran. Ensuite, je devais être famille relais pour After, sauf qu'il a trouvé le moyen de mettre son nez dans mon cou. Et là, j'ai fait, bon, toi, je t'adopte, c'est mort.
C'était fini.
c'était cuit. Hein. Là, je fais, bon, voilà, j'ai craqué. J'ai fait, bon, toi, je t'adopte. Ensuite, j'ai récupéré donc Tug, que j'ai appelé Père Dodu, parce qu'il avait une grosse paire de miches. Et donc, c'est ce chien-là, donc sa maman, Marie-Pierre, avait la maladie de Parkinson, en fait. Et moi, j'habite à Colombes, en banlieue parisienne. Sa maman habitait à Cergy, donc on n'était vraiment pas loin. Mais la fille, en fait, ne voulait pas s'occuper du chien, etc. Donc, en fait, le chien est arrivé chez moi. Et moi, je suis restée en contact avec elle jusqu'à ce qu'elle soit ensuite... elle a été mise dans une...
Une maison?
C'était pas vraiment un EHPAD, ouais. Mais enfin, c'était un truc pour les gens qui avaient la maladie de Parkinson. Et elle est partie très vite, en fait. Et donc, moi, je suis restée en contact avec elle le plus possible. Et que ça soit dans le cas de Marie-Thérèse ou de Marie-Pierre, dans les deux cas de figure, on s'appelait quasiment tous les jours. Et au début, c'est ce que je disais à Madeleine. C'est-à-dire qu'au départ, c'était...
pour le chien,
ouais. Nouvelles du chien. Mmh. Et puis après, c'était... ah, mais vous avez vu l'info. Ah, mais vous avez vu ça. Mais vous avez vu ça. Où elle me disait... Oh là là, c'était... Surtout la première, Marie-Thérèse, qui me disait « Non, mais ta mère, elle déconne hein, quand même. » Enfin, c'était très drôle, quoi. C'était, voilà. Et puis donc, Marie-Pierre est décédée. Et donc, le chien est évidemment resté chez moi.
Ensuite, j'ai récupéré une affreuse petite bestiole qui s'appelle Bettina, qui est une petite teckel qui vient d'un élevage, mais qui est adorable. Donc ça, c'est le côté teckel SDF, voilà. Ou teckel SDF, donc il y a la possibilité d'adopter des chiens ou bien de parrainer des chiens qui ne sont pas adoptables, etc. Et à côté de ça, depuis 6 mois, je suis l'esclave, on va dire ça. On va dire ça comme ça. D'un galgo, vous savez, les lévriers espagnols qui sont affreusement martyrisés en Espagne, qui sont pendus aux arbres, jetés dans des puits, etc., etc., qui ont une vie absolument abominable. Et donc, j'ai récupéré une merveilleuse galga, donc, puisqu'en espagnol, le galgo au féminin, c'est galga, qui s'appelle Gabana, qui a 6 ans et qui, là, est en train de me virer du canapé petit à petit.
Vous exagérez en même temps de prendre son canapé, franchement.
Ah non, mais là, il y a Sparrow, donc il y a un teckel et un lévrier sur le canapé. Mais là, c'est rien. Il y a des fois, c'est leur canapé et moi, je suis par terre, mais c'est pas grave. Et tout le monde s'entend super bien. Et donc là, c'est une association qui s'appelle le Relais des VIP of Course, qui se trouve en Charente. Et donc là, il y a des chiens qui sont arrivés le 9 mars directement d'Espagne, et où il y a des chiens à adopter. Et donc ce sont donc ces fameux galgos qui sont affreusement martyrisés.
Alors est-ce que
en
vous
Espagne.
Pouvez redonner doucement, lentement les coordonnées de cette association si on a des auditeurs qui sont intéressés, qui peuvent vous aider ou adopter des chiens?
Ouais, alors pour teckel, alors la première association pour les teckel, c'est teckel sans doux foyer.
Teckel sans doux foyer.
Ouais, Teckel SDF. Vous tapez sur internet, vous trouvez Teckel SDF. Il y a une page Facebook et il y a une page, il y a un forum aussi. Mm-hmm. Où là il y a alors les chiens donc à adopter et les chiens qui ne sont pas adoptables, donc qui sont en famille d'accueil, qu'on peut parrainer en fait. Alors le parrainage, ça peut être 10 € par mois. Mais 10 € par mois plus 10 € par mois plus un don éventuellement de 5 € plus, enfin voilà, c'est les petits ruisseaux font les grandes rivières, quoi. Parce que en fait, quand on récupère les chiens, on fait en sorte aussi de les remettre complètement dans leur état sanitaire,
en état de marche, voilà. Pour l'adoption, oui, bien sûr. L'autre association,
et l'autre, ça s'appelle le relais des VIP,
des VIP,
ouais, des VIP off. Ouais, des VIP off course, mais off avec 2 F.
Ok, c'est-à-dire le relais des VIP off course.
Voilà. Et là, c'est un relais pour les chiens qui viennent d'Espagne, donc les galgos. Il y a des podenco aussi, mais c'est principalement des galgos qui viennent.
Et ils sont où ces chiens? Ils sont dans des familles d'accueil aussi là, en ce moment?
En attente? Ouais. Parce que dans les deux cas de figure, c'est vraiment pas du tout des chiens en cage. On fait en sorte que, alors c'est là où c'est aussi compliqué, c'est que des fois il y a des chiens des gens qui demandent à ce que on prenne des chiens, etc. Ça peut être des refuges, ça peut être, mais il faut qu'on ait les familles d'accueil pour avoir la place, quoi. Parce que le but, c'est pas de refaire une SPA, si vous voulez, en gros.
C'est ce que j'allais vous dire. Qu'est-ce qui se passe quand le chien n'est pas adopté, la famille d'accueil doit le garder?
Pour les familles relais, c'est-à-dire les chiens qui sont adoptables, c'est-à-dire qui n'ont pas de pathologie, qui vont plutôt bien, mais qui ont du mal à trouver, le chien reste dans la famille relais tant que on lui trouve une famille d'adoption. En revanche, moi, ce que je fais, moi, je n'ai que des familles d'accueil, des chiens en famille d'accueil. Donc, les deux que j'ai en accueil sont Dalton et Bettina. Dalton, c'est un petit chien qui a été martyrisé. Alors il est pas vieux, il a 11 ans, hein. Mais il est totalement aveugle parce qu'il s'est retrouvé dans une cabane de jardin dans le noir, qu'il a pris des coups, etc. Et après, il est tombé sur une folle qui lui a fait arracher toutes les dents. Il lui reste 2 dents à ce pauvre chien. Et le problème, c'est que si vous voulez, pour beaucoup de gens, un chien à partir de 5 ans, c'est un vieux chien. Oui. Donc on a énormément de mal à faire adopter des chiens qui sont plus vieux, déjà, ça c'est la première chose, et ensuite des chiens qui ont des handicaps.
Oui, mais je vois, par exemple, quand ils sont vieux, quand ils sont moches, c'est plus long, c'est beaucoup plus compliqué, toujours.
Bah, c'est comme les femmes, hein.
Ça, c'est vous qui le dites, Virginie.
Non mais il y a ce truc du jeunisme un petit peu, c'est-à-dire que on aime bien un chiot parce que c'est mignon, parce que c'est ci, parce que c'est ça, et puis alors qu'en fait c'est souvent l'inverse, c'est-à-dire que moi je serais, alors très égoïstement, je vais être très honnête avec vous, très égoïstement, moi je ne prends pas de chien en relais, parce qu'un chien en relais ça veut dire que il va être adopté.
On s'y attache et il faut le laisser partir après.
Voilà. Moi, je ne prends que des vieux ou des handicapés ou des malades, voire les trois. Parce que comme ça, c'est un peu le triangle des Bermudes chez moi, si vous voulez. Donc, une fois qu'ils arrivent ici, ils ne repartent pas, en fait. Bon, enfin, ils repartent quand ils décèdent.
Virginie.
Et donc, du coup, voilà. Donc, moi, j'en ai. Donc, grosso modo, au niveau des TKL, j'en ai deux à moi que j'ai adoptés. J'en ai deux en accueil définitif. Mais, il y a des soins, il y a des croquettes.
Il faut de l'aide pour tout ça.
Tout est pris en charge par l'association et tout ne fonctionne que par les dons parce qu'en fait, on n'a pas de subvention, quoi. Voilà.
Alors, Virginie, avant de se quitter, on va redonner une dernière fois les noms des deux associations. Allez-y.
Ouais. Alors, pour les TKL, c'est l'association TKL Sans Doux Foyer.
Mmh. TKL SDF.
Donc, TKL SDF.
Et l'autre.
Voilà. Et l'autre, pour les Galgos, les lévriers venus d'Espagne, c'est le relais des VIP Off Course.
Voilà. Écoutez,
mais si vous tapez relais des VIP Galgos, vous allez trouver. Voilà.
Le message est passé. Je voulais vous aider, vous tendre cette main aussi, parce que je trouve que ce que vous faites est formidable et ce que vous avez fait ce soir pour Madeleine est vraiment formidable aussi. Merci, Virginie.
Merci à vous de m'avoir donné la possibilité de discuter avec elle. Et puis, je me dis que si ça peut, de temps en temps, ouais, si elle a un coup de mou et qu'elle veut m'appeler, je suis là, quoi.
Elle a pris ses coordonnées. Ce que je vous propose, c'est de ne pas raccrocher non plus. Et Hassan va vous donner ses coordonnées à elle. Ça sera peut-être aussi plus facile.
Ouais.
Hein, on fait comme ça.
Ok, super. Merci beaucoup.
Merci à vous, Virginie. Je vous embrasse.
Moi aussi, je vous embrasse.
Et
bonne soirée. Et
bisous aux poilus.
Oh là, il va y avoir du monde.
Il y a du travail. bonne soirée.
Merci beaucoup à vous aussi. Au revoir.
La Libre Antenne, Sabine Marin.
Et c'est Pascal que j'accueille. Bonsoir à vous, Pascal.
Bonsoir, Sabine.
Je sais que vous attendez depuis un petit moment. Je voulais absolument vous donner la parole avant que l'émission se termine.
Oui, ça va être un peu court. Alors.
Oh, mais au pire, vous savez, on continuera demain la conversation si vous le souhaitez.
Ah oui, d'accord. Ouais.
Déjà, on va faire connaissance et vous allez me dire
d'accord,
un petit peu ce qui s'est passé dans votre vie. Je vous écoute.
Dans ma vie, j'avais pas mal de choses, en fait, mais là, je voulais surtout appeler.
Pardonnez-moi, Pascal, je vous entends pas très bien.
Ah, mais pourtant, je suis à côté de la base de mon téléphone.
Mais est-ce
je ne parle peut-être pas assez fort.
Peut-être devant le combiné, devant le...
Ah oui, non, j'ai
mis... Ah bon.
Je suis devant le combiné, mais ça se trouve, il va se décharger, parce que ça fait 1h30, depuis 11h, que j'attends, en fait, donc c'est pour ça aussi.
Je vous écoute, allez-y.
Alors voilà, en 1987, j'attendais un bébé. Et en fait, ce qui était curieux, ce que je ressentais, c'est que le bébé n'allait pas bien. Et dès le début de la grossesse, en fait.
Mmh.
Et donc, j'allais voir mon médecin traitant pour les visites, mais je lui avais dit dès le premier mois, je suis enceinte. Donc, je lui dis que ça va pas, et ça m'a ramené du temps que ma maman m'attendait. J'ai fait le lien, c'est-à-dire que moi, je suis née malade, en fait.
Malade de quoi?
Je suis une grande asthmatique, et je suis née malade, et j'avais l'impression, in utero, dans le ventre de ma maman, que je voulais sortir au plus vite, en fait.
Est-ce que vous étiez une petite fille désirée?
Oui, oui.
Il y avait un papa qui était présent, aimant?
Ah oui, ils sont toujours là. On est 8 enfants, on s'entend à merveille, on fait des grandes fêtes à 40. Ah non, c'est une famille très chaleureuse.
Donc vous êtes arrivée, vous avez commencé votre vie dans un contexte plutôt positif, malgré cette maladie.
Positif, oui, mais des choses que je n'ai jamais dévoilées à ma maman parce que j'ai été violée de 5 ans à 11 ans.
Par qui?
Je l'ai gardé pour moi parce que c'est très compliqué. C'est ce qu'on disait, c'est ce que j'entendais hier soir. Vous savez, il y a 3-4 personnes qui ont parlé de la même chose à suivre.
Mmh.
Et donc, j'ai été violée 8-5 ans à 11 ans. Et c'est quand je suis partie au collège, en fait, que ça s'est arrêté.
Par qui, Pascal? Qu'est-ce qui a...
C'est quelqu'un de l'entourage...
proche.
Qui n'avait pas de lien de famille, mais c'était un proche, c'était mon parrain.
Ouais, c'est ce qu'on disait hier soir. 9 fois sur 10 sont des gens de l'entourage proche. Hein. Et personne n'a rien vu?
Non, personne n'a rien vu.
Et vous n'avez pas osé en parler à l'époque, bien sûr?
Quand on est petit comme ça, on ne sait pas ce qui nous arrive.
Bien sûr. Comment est-ce qu'il a fait pour avoir accès à vous sans que personne s'en rende compte? Parce que si c'est un parrain, il ne vivait pas avec vous en plus, j'imagine.
Pardon?
Il ne vivait pas sous le même toit.
Donc non.
Pouvait vous approcher sans que personne s'en rende compte?
Il habitait le même village que mes parents, donc un petit village, un petit lieu-dit en fait, un village, un petit lieu-dit dans une commune. Mmh. Et en fait, il habitait donc derrière chez mes parents en fait, la ferme derrière chez mes parents. Et donc, il était amené souvent... à voir mes parents, et puis moi, innocemment, quand ils partaient, ça m'arrivait de sortir avec mes sœurs, et puis ils m'appelaient. Moi, je suis allée, et puis ça continuait comme ça, en fait. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose, un coup, j'ai été hospitalisée. J'avais pas 30 ans. Enfin, je suis arrivée à Rennes, j'avais 22 ans. Mmh. Et il y a un médecin, quand j'étais hospitalisée, alors que je n'avais rien dit, c'était pas dans mon dossier, je n'avais rien dit. Ce médecin est revenu me voir tout seul. Il m'a dit, madame, j'ai quelque chose à vous demander. Vous n'avez pas subi... quelque chose, je l'ai regardé, mes bras m'ont fui tomber. Mmh. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous entendez, alors que je savais ce qu'il voulait me dire.
Bien sûr.
Je lui ai dit, qu'est-ce que vous entendez par subi quelque chose? Il m'a dit, vous n'auriez pas subi une violence à un enfant? Je lui ai dit, si. Je lui ai dit, mais comment vous le savez, c'est pas dans mon dossier, puisque je venais d'arriver dans ce service pour la première fois, donc voilà. Et donc, il l'a deviné, en fait.
Il l'a perçu.
Oui, exactement. C'était le seul médecin à le percevoir, en fait. Ouais.
Donc vous me disiez que quand vous avez quitté la maison, ça s'est évidemment de fait arrêté, mais vous n'aviez toujours...
Oui, c'est quand je suis allée au collège, en fait.
Vous n'aviez toujours rien dit à personne?
Non. J'en ai parlé à ma sœur il y a quelques mois. Les bras lui en sont tombés. J'ai cru qu'elle avait cardiaque. C'est ma sœur aînée, elle a un an plus que moi. Et elle m'a dit tu aurais dû m'en parler, mais je dis attends, du haut de. Moi j'avais 5 ans, t'en avais 6. Oui. Comment veux-tu que je te parle de ça? Déjà, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bien sûr, aujourd'hui, elle est bientôt à la retraite et moi, j'ai un an moins qu'elle, quoi, donc.
Qu'est-ce qui fait que maintenant vous avez eu ce besoin de lui en parler?
Parce que ça me rongeait, en fait, au plus profond de moi. Puis je pense que j'ai une très grande confiance en mes frères et sœurs. Je veux pas en parler à mes parents parce que je sais que ça va les ébranler. Parce que on a perdu un frère il y aura 17 ans cette année, qui s'est suicidé et c'est mon papa qui l'a trouvé. Et c'est pour la simple et bonne raison que je ne leur en parlerai pas.
Souvent, c'est une constante qu'on retrouve dans l'histoire des gens qui ont subi ce que vous avez subi, c'est de ne protéger les parents en fait.
Oui.
De peur qu'ils s'écroulent.
Et mes parents n'ont jamais rien su, rien vu. Non.
Mais à part votre sœur, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous en avait parlé? Est-ce que vous avez été vous faire aider par un psy?
Alors, j'en ai parlé à mon médecin traitant.
Oui.
Ici à Rennes. Et j'ai commencé une thérapie, en fait. Ah. Quand j'ai perdu mon bébé en 87, en fait. Et j'en ai parlé là.
C'est là que tout
alors,
a monté.
Il a fallu que je fasse deux travails en parallèle, en fait.
Un deuil et deux deuils en fait, en réalité.
Un deuil qui n'est toujours pas fait.
Oui. De ce bébé ?
Oui, parce que je n'ai pas vu cet enfant décédé. Et mon mari non plus. J'ai une chance d'être toujours avec mon mari. Ça fait 43 ans que nous sommes ensemble, parce qu'on avait construit aussi de très bonnes fondations pour notre couple, en fait.
Hein. C'est une grande chance. Hein. C'est rare par les temps qui courent, ça.
Ouais, c'est... Je fais quelque chose d'extraordinaire. Heureusement qu'il est là. Mais... cet enfant qu'on a perdu, je souffre d'une très grande culpabilité. Parce que... Je pense que c'est de ma faute.
Pourquoi ce serait de votre faute ?
Parce que je le portais. Il bougeait beaucoup. Et en fait, je sentais qu'il voulait sortir, qu'il me disait, sors-moi de là, j'ai quelque chose. Il est donc né à 7 mois et demi de grossesse, alors que j'avais fait 7 échographies. L'échographe mettait toujours périmètre crânien, de temps, enfin voilà, tout était bon, il n'y avait rien à signaler, RAS comme ils mettent si bien. Alors à l'heure d'aujourd'hui, moi quand je passe un examen, je préviens toujours la personne qui me passe l'examen que dans le courrier de mon médecin et que moi je demande à recevoir après, en même temps quoi, je ne veux pas avoir RAS.
Oui, bien sûr. Ouais. C'était un petit garçon ou une petite fille ?
Oui, c'était un petit garçon.
Un petit garçon.
Et sachant que j'avais fait deux fausses couches avant. Donc, ça a été le coup de massue. Parce qu'il a vécu deux semaines, ce bébé. Et nous avons su... il a été d'abord opéré trois fois en 72 heures. Et nous avons su qu'au mois de... Alors, il est né en janvier 87. J'avais deux sœurs enceintes en même temps que moi, puisque je devais accoucher fin février. Une de mes sœurs le 16 et mon autre sœur le 5. Et on était toutes les trois heureuses, et... alors qu'on ne savait pas au début qu'elles étaient enceintes en même temps que moi, puisque voilà, quoi. Et puis... moi, je me sentais pas bien, en fait, pendant cette grossesse. Et si bien donc que quand j'ai accouché du petit, 7 mois et demi à terme, enfin de terme, quoi. Donc il manque un mois et demi quand même pour qu'il se développe. L'échographe mettait l'enfant estimé à la naissance à 3 kg 200 et quelques. Un petit bébé à la naissance qui faisait 900 grammes.
Oui, ça ne s'est pas passé du tout. Pascal, je suis désolée, je ne veux absolument pas bâcler cette conversation. Si je résume, il y a deux grands chocs de votre vie. Il y a la perte de cet enfant qui n'a pas été encore acceptée, en tout cas qui est encore extrêmement douloureuse. Et puis il y a cette agression sexuelle. Est-ce que vous voulez bien qu'on reprenne cette conversation toutes les deux demain soir ?
Oui, salut.
Est-ce que vous serez disponible à 23h pour qu'Amandine Wassan vous appelle et que vous passiez en priorité dès le début de l'émission ?
Oui, je les appelle vos petites mains.
Mes petites mains, mes petits cœurs, ils sont adorables tous les deux.
Ouais.
Et si vous le voulez bien, plutôt que de se presser, de bâcler, de terminer n'importe comment cette conversation, j'aimerais qu'on prenne le temps.
D'accord.
Et j'essaierai de faire mon maximum pour vous aider à comprendre certaines choses et à traverser ces deux épreuves-là et à vous faire voir qu'il y a quand même quelque part toujours une lumière qui revient derrière tout ça.
Oui, mais j'ai deux fils qui sont nés après. Ce sont des amours, ils sont adultes.
Ça, c'est formidable.
De nous deux, on s'entend très bien, tous les quatre, avec leurs petites amies, c'est formidable. Non, ils sont très présents pour moi parce que je suis malade aujourd'hui. Donc, c'est très lourd pour moi. Parce que je suis sur un lit médicalisé. Ce que je disais à Hassan, j'ai l'infirmière qui vient trois fois par jour, le kiné qui vient tous les jours, parce que j'ai une maladie qui fait que...
Mais Pascal, je vais être obligée de vous laisser. Je vous serre fort dans mes bras. Je vous abandonne pas pour longtemps. Je vous retrouve demain soir. Le rendez-vous est pris.
Merci.
Je commence l'émission demain soir avec vous, c'est promis.
D'accord.
D'accord.
Merci, Sabine.
Merci mille fois à vous. Je vous embrasse. À demain.
Et je vous embrasse aussi. Merci à ça.
Merci. Merci à vous, Pascal. Merci à Virginie, à Madeleine, à Raymond, à Olga pour tous ces formidables partages, pour toute cette générosité. Je vous retrouve demain soir avec le même plaisir à partir de 23h sur Europe 1. Je vous quitte avec cette jolie citation. Les obstacles sont des choses épouvantables que vous pouvez voir quand vous détournez les yeux de votre objectif. Passez une douce nuit et je vous laisse dans un instant avec les dossiers extraordinaires de Pierre Bellemare.